Bonjour et bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente Dominique Parent, agente culturelle de la Direction de la programmation culturelle à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui une conférence offerte dans le cadre d'un partenariat entre Bibliothèque et Archives nationales du Québec, l'UQAM et UQAM Génération. Intitulée « Vieillir, un esprit sain dans un corps sain », cette conférence sera prononcée par M. Louis Bérère, qui a accepté de venir partager avec nous ses connaissances et sa passion pour une question qui nous effraie sans doute autant qu'elle nous concerne. Peut-on vraiment réduire les effets néfastes du vieillissement? Je tiens aussi à remercier Mme Christina Lagu, qui a été une précieuse collaboratrice dans l'organisation de cette conférence. Sans plus tarder, je vous présente notre invité, M. Louis Bérère. Après une maîtrise en psychologie cognitive de l'Université Laval et un doctorat en neuropsychologie de l'Université de Montréal, il a travaillé pendant 2 ans au Beckman Institute for Advanced Science and Technology, où il a conduit des recherches en neurosciences cognitives du vieillissement. Il est actuellement professeur de psychologie à l'Université du Québec à Montréal et chercheur au centre de l'Université universitaire, de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, où il dirige le laboratoire d'études de la santé cognitive des aînés. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Bérère. Et je vous rappelle, bien sûr, d'éteindre vos cellulaires et il y aura aussi une période de questions à la fin de cette conférence. Merci de votre attention et bon après-midi.
Bonjour. D'abord, je voudrais remercier les gens de la Grande Bibliothèque et Mme Parent de cette invitation, de me donner la chance de vous parler ce midi. C'est toujours une occasion très agréable pour moi de venir parler à l'extérieur des murs de l'Université de nos recherches, de ce qu'on fait au quotidien. On a toute une équipe de recherche qui travaille fort, des fois 7 jours par semaine dans certaines périodes de l'année parce que c'est des passionnés. Mais c'est toujours très valorisant de pouvoir aller raconter ce qu'on trouve à monsieur et madame tout le monde. C'est toujours passionnant, mais c'est toujours un défi aussi, parce que vous savez, on a l'habitude de parler à des étudiants qui sont dans notre domaine, à des collaborateurs qui sont dans notre domaine, donc on fait des fois un peu de ce qu'on appelle de jargon. Hein? On utilise toujours les mêmes mots, on utilise toujours les mêmes termes, ce qui fait que quand on sort de nos murs universitaires, parfois, on peut être un peu moins facile à comprendre. Donc, si jamais je parle trop avec du jargon, j'utilise des mots que pour vous qui ne parlent pas pour vous, faites-moi signe. Si vous êtes gêné, faites-moi une petite grimace, quelque chose. Comme ça, je saurai que je parle toute seule et qu'il faut que je sois un petit peu plus clair. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de vieillir un esprit sain dans un corps sain. Est-ce que ça se peut? Moi, je pense que oui. Et je vais essayer de vous en convaincre aujourd'hui. Ce que je vous propose, en fait, c'est peut-être de se mettre un peu en contexte. Donc, au début, de parler du vieillissement démographique, mais aussi psychologique. Hein, on va vérifier les évidences qui montrent que, bon, ben plus la population, plus le temps passe, plus la population vieillit, puis qu'est-ce que ça a comme conséquence? On va parler, bien, évidemment, de ce que ça a sur le cerveau comme impact de vieillir avec les années, qu'est-ce que notre cerveau subit comme changement. Mais on va parler surtout des modérateurs, de qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser l'impact du passage du temps sur le cerveau, sur les fonctions cérébrales. Je vais m'attarder un peu plus longtemps sur les activités stimulantes sur le plan intellectuel et les activités physiques, parce que c'est des travaux auxquels je participe beaucoup. Et ensuite, on va faire une petite conclusion un peu générale, moins scientifique, parce qu'elle est moins prouvée, mais plus facile à adapter dans la vie de tous les jours. Je vais vous faire une proposition, en fait, de ce qui pourrait ressembler à un plan de retraite cérébral. Hein? Vous avez tous et toutes des plans de retraite, peut-être pas tout le monde, mais je suis certain que quelqu'un un jour dans votre vie vous a dit que vous devriez en avoir un. Mais je vais vous dire la même chose aujourd'hui avec votre cerveau. Vous devriez avoir un plan de retraite cérébral. Évidemment, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Si nos recherches ne servent pas à être appliquées dans la vie de tous les jours, je me dis toujours que ça ne sert à rien d'en faire autant. Donc, c'est important d'arriver avec des plans concrets. Le vieillissement démographique, je pense que de plus en plus, les gens savent que la population vieillit un peu partout dans le monde, mais c'est surtout vrai pour les pays occidentaux. Donc, ce n'est pas une grande découverte si je vous dis ce midi que plus le temps passe, plus on vieillit. au Canada. En fait, il y a 10 millions de personnes qui auront 65 ans et plus en 2026, comparativement à 4 millions en 2006. Okay? Donc, c'est plus du double en à peu près une vingtaine d'années. Plus on vieillit, bien, plus le temps passe, bien, plus on vieillit vieux aussi. Les aînés de 85 ans et plus forment le groupe d'âge qui augmente le plus vite dans la population occidentale à l'heure actuelle. Il y aurait plus de 800 000 centenaires dans le monde en 2050. Au Japon, en Suisse, en France, on pense que le nombre de centenaires double tous les 5 ans. Moi, quand j'ai commencé à faire de la recherche dans le domaine du vieillissement, ça fait pas très longtemps, j'avais jamais vu une étude, et on avait à peu près jamais vu une étude sérieuse sur les centenaires. Aujourd'hui, on en voit sortir dans les revues scientifiques à chaque année. Une étude avec des centenaires, ça prend beaucoup de centenaires. Hein? Donc, c'est pour vous montrer comment il y a vraiment un changement majeur dans la démographie mondiale à l'heure actuelle. Donc, à quoi ça ressemble sur graphique? Moi, j'aime bien montrer des graphiques. Hein? En recherche, on aime ça, les graphiques. Je vais vous les expliquer, par contre. Mais vous allez voir, ça fait des petites images mentales très intéressantes. Donc, vous avez ici les années qui passent, de 1950 à 2050. J'ai mis 100 ans sur le graphique. Et le pourcentage de population ayant 65 ans et plus. Puis vous voyez que partout dans le monde, mais surtout en Europe et en Amérique du Nord, la population de 65 ans et plus a fait un bond énorme à partir des années 2000-2010. Donc, c'est des projections, évidemment, mais on s'attend à avoir vraiment une forte proportion de personnes dans ces âges-là. Au Canada, plus près de nous, regardez ce qu'on voit, ce qu'on prévoit chez Statistique Canada. Vous avez à gauche, pour chaque chiffre, un pourcentage de la population, et pour avoir un pourcentage global, il faut additionner ces nombres-là. Donc, par exemple, 0,5%, 1%, et ainsi de suite. Chez les hommes et les femmes, à partir de 65 ans et plus, et 80 ans et plus. Ça, c'était en 2000. Regardez le changement de la distribution en 2026, et regardez en 2050. C'est beaucoup moins une poire, mais beaucoup plus, je dirais, bon, je ne suis pas très bon dans les fruits. Mais vous voyez clairement que ici, on aura non seulement beaucoup de 65 ans et plus, mais on aura, à toute fin pratique, autant de 80 ans et plus qu'on avait de 65 ans et plus dans les années 2000. Hein? Donc, en 2000, souvenez-vous, quand vous regardiez autour de vous et que vous voyez des personnes âgées, dites-vous qu'en 2050, les jeunes qui vont faire le même exercice, regardez dans la population, vont trouver des 80 ans et plus en aussi grand nombre. 80 ans, c'est beaucoup d'années hein, sur un cerveau. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses positives aussi, pas juste des choses négatives, par contre. Un cerveau, ça apprend à tous les âges. Bon, évidemment, plus le temps passe, plus on vit longtemps. Donc, au début du siècle, parce qu'il n'y a pas juste qu'on vieillit, mais on vit plus longtemps hein, en termes de longévité, même à un âge avancé. À 65 ans, on pouvait vivre encore 13 ans au début du siècle, alors qu'en 2003, la même personne, à peu près comparable à 65 ans, pourra estimer vivre encore 19-20 ans. Okay? Donc, même les aînés vieillissent, c'est ce que ça veut dire. Le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, vieillir n'est pas toujours rose, et pour une forte proportion de personnes âgées, plus le temps passe, plus on devient dépendant. Hein? Le trois quarts des retraités se disent en très bonne santé, ce qui est une bonne chose. Mais après 75-80 ans, ça change drastiquement. Et il y a plus de 60% des gens de 85 ans et plus qui disent avoir besoin d'aide pour vivre une vie normale. Donc ça, c'est des statistiques en passant qui paraissaient dans Le Devoir en février 2007, pour ceux que ça intéresse. Pourquoi on vieillit? Bon, bien, rapidement, je pense que vous en avez sûrement entendu parler. En partie à cause de l'espérance de vie qui augmente toujours, à cause des développements au niveau de la santé, au niveau de la qualité des soins de santé. Donc, vous voyez ici que dans la préhistoire, l'espérance de vie à la naissance était très, très bas. Hein? Il y avait des gros animaux sur la planète, peut-être, c'est ce qu'on dit dans les dessins animés. Aujourd'hui, on vit plus longtemps. On vit même dans les années 2000, en France, jusqu'à 80 ans. C'est des statistiques pour la France ici. Chez les hommes, autour de 75 ans, et chez les femmes, autour de 83 ans. C'est énorme, hein? Ça veut dire que pour l'humanité, c'est tout un bond. En fait, l'espérance de vie a pratiquement doublé depuis le début du 20e siècle. Évidemment, on sait aussi que le taux de fertilité diminue beaucoup, donc on vit plus longtemps, mais on se reproduit un peu moins. On le voit ici dans à peu près toutes les régions du monde. Et dans les régions plus moins développées, bien évidemment, le taux de fertilité diminue aussi. Ça, c'est une autre chose que je pense que les gens ont tendance à penser que le taux de fertilité diminue seulement en Occident, mais ce n'est pas vrai, il diminue un peu partout dans le monde. Bon, heureusement, on est de plus en plus nombreux à vieillir. Les personnes âgées vieillissent entre elles, donc plus de personnes très âgées. On appelle ça dans les études, si je fais une traduction libre de la littérature anglophone, on les appelle les vieux-vieux. Hein? Les gens de 75 ans et plus dans les études. Mais heureusement, il y a un changement aussi dans la conception qu'on a de la vieillesse, de ce que c'est que de vieillir. On n'a qu'à regarder ce qu'en disait Jacques Brel dans les années 60. Hein? Souvenez-vous de cette chanson de Jacques Brel, « Les vieux ». Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement, parfois du bout des yeux, blablabla, blablabla. Bon, c'est triste, hein, vieillir dans ces chansons-là. Bon, Brel n'avait pas envie de vieillir non plus beaucoup, probablement. Alors qu'aujourd'hui, en 2006, on est bombardé par des images de vieillissement optimal. Je tire ces images du National Geographic de novembre 2006, je crois. Je m'excuse, je ne l'ai plus en tête. Mais c'est autour de novembre 2006. Donc, le National Geographic, on voit ici, qui a dédié un numéro sur les explications possibles du bien vieillir de certaines sous-populations dans le monde, par exemple les gens de la Sardaigne en Italie, de l'île d'Okinawa au Japon, et même de certaines communautés américaines. Ici, on a un Californien de 100 ans qui se demande qui on appelle le vieux, hein? 100 ans à faire du ski nautique, c'est quelque chose. Ici, le jeune homme de 84 ans, en fait, fait sa méditation avant d'aller faire son triathlon. Hein? C'est quand même quelque chose. On regarde ça et on se dit, il y a de l'espoir, un jour je serai en forme. Donc, ce changement dans la conception de la vieillesse, d'où vient-il? Est-ce qu'il est une lubie? Est-ce qu'il vient seulement d'une idée qu'on a... Tout d'un coup, un journaliste s'est levé et s'est dit « Moi, ça ne me tente pas de vieillir, je vais prendre des photos de personnes âgées actives puis je vais dire à tout le monde qu'on peut bien vieillir. » Non, en fait, ce changement dans la conception de la vieillesse, il est témoin de réelles découvertes scientifiques qui rendent compte d'une réalité très importante. C'est que la vieillesse est un phénomène extrêmement hétérogène. Plus les gens vieillissent, moins ils se ressemblent. Et ça, c'est quelque chose qui nous lance de grands défis, nous, en science, parce que la plupart des sciences, surtout les sciences humaines, sont construites autour de modèles souvent très statistiques, avec une approche très généraliste, où on essaie de mettre tout le monde dans des moyennes, hein, dans des courbes de normalité. Et c'est comme ça qu'on étudie le comportement humain en science. Sauf que quand on s'intéresse au vieillissement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de données extrêmes. Il y a beaucoup de personnes qui ne rentrent pas dans notre moyenne, qui ne ressemblent pas à notre conception qu'on a du vieillissement. Et quand on les regarde de plus près, bien, ça nous montre des indices de ce qu'on peut faire pour modérer les effets de l'âge sur le vieillissement. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant la vieillesse, et c'est ça le défi scientifique à l'heure actuelle, c'est de comprendre pourquoi nous ne sommes pas tous égaux dans la vieillesse. Et à titre d'exemple, un peu plus près de nous, c'est tout proche, c'est à l'UQAM, de l'autre côté de la rue. Je vous cite l'exemple de Monique Nadeau, paru dans le journal de l'UQAM le 2 avril 2007. Madame Nadeau a défendu une thèse avec brio, une thèse apparemment exceptionnelle. Je ne peux pas en juger parce que je ne connais pas l'histoire de l'art, mais on parle d'un travail d'érudition remarquable, d'une thèse novatrice qui doit être publiée, donc un doctorat formidable de la part d'une dame de 78 ans. Okay. Comme quoi... Il n'y a pas d'âge pour apprendre et pour faire évoluer les connaissances non plus. Bon, tout ça m'amène à vous dire que, pour bien comprendre d'où viennent ces différences dans le vieillissement et d'où viennent ces différences de profil de vieillissement, il faut étudier ce phénomène qui est complexe. Et même d'un point de vue strictement, d'un domaine strict de la science, on n'est pas obligé d'aller voir en médecine et dans tous les domaines, mais même seulement en psychologie, on se rend compte que c'est extrêmement complexe. Il faut tenir compte de toutes sortes de facettes qui vont influencer le vieillissement. Parce qu'avec l'âge, va survenir des changements biologiques, psychologiques, sociaux, relationnels. Il y a énormément de choses qui se passent dans une vie. Et ces changements-là peuvent être des sources de problèmes, mais ils peuvent aussi être des sources de bonnes choses, de bonnes réussites. Donc, on va s'intéresser, quand on s'intéresse à la psychologie du vieillissement, à différentes dimensions, dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que ce serait beaucoup trop long. Mais seulement pour les identifier, on va parler de la première chose, c'est le fonctionnement normatif. La première chose qu'on va se poser comme question, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne peut garder les capacités à maintenir un mode de vie indépendant? C'est quoi les déterminants d'un mode de vie indépendant? On va parler des dimensions affectives aussi, parce qu'il y a des changements qui sont inéluctables, physiques, physiologiques, mais ce serait bien de pouvoir s'adapter à ces changements-là pour rester quand même positivement, avoir une attitude positive avec le vieillissement. Donc, avoir une dimension affective intéressante, être heureux là-dedans, être heureux dans nos relations, et c'est pas parce que mon corps change que je dois nécessairement en souffrir. Donc, trouver un équilibre émotionnel, un bien-être subjectif. Les compétences sociales sont extrêmement étudiées et sont extrêmement importantes. Souvent, en vieillissant, nos besoins augmentent, physiquement au moins, mais ça ne veut pas dire que nos compétences sociales doivent en souffrir, et au contraire, peut-être qu'on a vécu beaucoup de choses, qu'on peut apporter beaucoup à notre réseau social, et en retour, notre réseau peut nous supporter, mais tout ça vient d'une habileté à développer des aptitudes sociales et de les maintenir dans le vieillissement, et donc de garder des belles relations sociales. Et on sait en recherche que les relations amicales peuvent favoriser une interaction plus saine et augmenter le sentiment de compétence sociale des personnes. Donc, encore une fois, améliorer le bien-être subjectif. C'est extrêmement important, le bien-être subjectif. Se sentir bien, hein, ça vaut cher. Tout le monde sera d'accord avec moi là-dessus. Et si je vous disais aujourd'hui que je vous regarde, là, puis j'ai un œil magique, je peux évaluer votre condition physique, puis il n'y a personne ici qui peut courir le 100 mètres. Vous n'êtes pas assez en forme. En tout cas, pas en bas de 2 minutes. OK? Là, vous pourriez me dire, puis, ça change quoi? J'ai pas envie de courir le 100 mètres. Hein? C'est ça la notion de bien-être subjectif. À quoi ça sert? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre journée, de vos activités, et de trouver l'équilibre entre votre potentiel et ce que j'ai envie de faire? Bien, c'est ça qui est important. Donc, dans l'étude du vieillissement psychologique, c'est un élément extrêmement important de savoir quels sont les besoins et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer une belle rencontre entre les besoins d'une personne et son potentiel. Et tout ça passe par le quatrième point extrêmement important de l'étude du vieillissement, et c'est de ça que je vais parler pour le reste de ma présentation. C'est le vieillissement cognitif, qu'on appelle, ou, si on veut, le vieillissement des fonctions intellectuelles. Ça revient à se poser comme question, comment le cerveau vieillit? Qu'est-ce qui se passe au niveau de cet organe mystérieux qu'est le cerveau? Et quand on le voit vieillir et qu'on voit nos comportements changer, jusqu'à quel point les changements sont-ils normaux ou anormaux? Hein? Est-ce que d'oublier le nom d'une personne, c'est dramatique? Est-ce que ça veut dire que je suis en train de développer une maladie, la maladie d'Alzheimer? Moi, je vous dirais qu'à mon âge, j'en oublie souvent des noms de personnes. J'ai pas vraiment peur de développer la maladie. Donc, là, quelqu'un pourrait me dire, oui, mais c'est normal à l'occasion d'oublier. Oui, puis peut-être que quand on est plus jeune, on s'en fout un peu plus. Puis quand on est plus vieux, bon, on s'occupe un peu plus de nos oublis. Donc, trouver des repères pour savoir qu'est-ce qui est un oubli normal et anormal, c'est extrêmement important. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger contre ce déclin-là, s'il y a un déclin, et surtout contre un déclin qui serait trop précoce. Autrement dit, repousser au plus loin possible la barrière du déclin cognitif. Le vieillissement cognitif, c'est un déterminant majeur de la qualité de vie, donc il renvoie à tous les aspects dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'abord, c'est la source de plaintes majeures. Quand une personne âgée vient nous voir au laboratoire, c'est la première chose qui l'agace. Souvent, une personne peut avoir mal au genou, mais vous savez, ça fait 10 ans que j'ai mal au genou, puis je fonctionne pareil. Mais commencer à perdre la mémoire, ça fait peur à tout le monde. Donc, c'est une source de plaintes majeures. Ça peut entraîner la perte d'autonomie. On n'a qu'à penser aux gens qui habitent surtout loin des centres urbains. Hein, où il n'y a pas beaucoup d'autobus ou de métro. Perdre de la faculté cognitive nécessaire pour conduire une auto, c'est perdre l'habileté à sortir ou l'aptitude à sortir de chez soi puis voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc, ça peut favoriser une perte d'autonomie, un isolement social, un sentiment d'incompétence aussi. D'où l'importance de s'en occuper. Ce que la science confirme de plus en plus au cours des dernières années, c'est ça qu'on va regarder ensemble, mais plus en détail. On va mettre des mots, des exemples, on va essayer de voir comment ça fonctionne en science pour montrer ces évidences-là. C'est qu'il existe des modérateurs. C'est pas vrai que le cerveau subit les contre-coups du temps de façon inéluctable et semblable pour tout le monde. Okay? il y a des façons de gérer un mode de vie qui sont préventives pour prévenir un déclin trop précoce des fonctions cérébrales. Cette figure-là, je m'excuse pour l'anglais, mais j'ai toujours un peu d'hésitation à traduire des images empruntées à d'autres collaborateurs. Ici, c'est une collègue des États-Unis qui a publié dans Current Opinion in Neurobiology une espèce de cascade de ce qu'on connaît présentement qui pourrait agir sur le cerveau. Vous avez ici un cerveau, c'est à ça que votre cerveau ressemble. Je vais juste voir une chose. OK. Excusez-moi, je voulais juste être certain que je n'avais pas oublié un point important. Donc, vous avez ici votre cerveau, OK? On sait de plus en plus qu'il y a de la génétique qui intervient. Hein? Donc, les gènes qu'on porte vont faire en sorte qu'on peut être plus sensible à certaines maladies qu'à d'autres. Vous le savez, de plus en plus dans les journaux, on parle de génétique pour à peu près toutes les affections, toutes les maladies, qu'on soit jeune, qu'on soit âgé. Ça touche monsieur, madame, tout le monde. Donc, il ne faut pas paniquer. Il ne faut surtout pas paniquer parce que le fait de porter un gène ne signifie pas qu'on va développer une maladie. Hein, il y a d'autres facteurs environnementaux qui peuvent faire en sorte que ce gène s'active ou ne s'active pas. Ou, en d'autres mots, que l'interaction entre le fait d'avoir un gène donné et des comportements dans la vie de tous les jours fasse qu'on développe une maladie. Il y a certainement un facteur majeur qui joue sur le cerveau, c'est la santé cardio-respiratoire, cardiovasculaire aussi. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc, le fait de maintenir un mode de vie actif, en bonne santé, va nous prémunir. Le fait aussi de rester actif intellectuellement, donc soit par des programmes de stimulation cognitive, qu'on appelle aussi d'entraînement cognitif, ou de rester actif dans notre société en faisant du bénévolat, en agissant avec les gens autour de nous, va faire en sorte que aussi on va développer un sentiment, donc des émotions positives par rapport à nos changements et à nos changements de vie, à notre retraite, au fait d'avoir plus de temps pour nous. Et tout ça, je vais vous le montrer, a un effet scientifiquement prouvé sur les fonctions cérébrales, sur le bien-être de cet organe qui est le cerveau, qui est ici au centre de tout ça. Et ça va faire en sorte qu'on sera sur cette photographie, soit à droite, en train de vivre un vieillissement optimal, que les anglophones qualifient de « successful aging », ou un vieillissement moins optimal, qui nous entraîne vers un spectre de déclin intellectuel, de déclin cognitif. Tout ça, c'est très abstrait, mais je ne peux pas vous parler pendant une heure et quelques de vieillissement intellectuel sans vous montrer comment ça se mesure. Hein? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais on va voir. Parce que c'est beau de dire, moi, je mesure le fonctionnement intellectuel, le fonctionnement du cerveau, mais encore faut-il que je développe des outils. Je n'ai pas toujours accès à, comme les personnes ici, à un scanner dans lequel je pourrais glisser une personne. Et de toute façon, entre vous et moi, est-ce qu'on a vraiment tous envie de se faire scanner le cerveau ce matin? Hein? Bon. Donc, la question, c'est, est-ce que je peux éviter d'aller dans le scanner pour voir mon cerveau sur un grand écran en couleur comme ça? Et trouver des moyens comportementaux, donc dans la vie de tous les jours, d'évaluer le fonctionnement intellectuel. D'abord, il faut comprendre que le fonctionnement intellectuel est complexe. Il n'existe pas une cognition au sens large, mais il existe plusieurs mécanismes ou processus cognitifs. Et donc, la cognition, c'est l'ensemble des habiletés mentales. C'est l'ensemble de ces processus-là. Okay? Ça favorise évidemment le maintien et l'accès aux connaissances. L'accès d'abord, comprendre ce qui se passe dans l'environnement, savoir lire, c'est une fonction cognitive. La mise en mémoire et le maintien de cette mémoire-là pendant longtemps. On divise souvent la cognition en sous-composantes. On va parler à ce moment-là de l'attention, par exemple, la capacité d'être attentif, m'écouter présentement sans penser trop à ce que vous avez fait ce matin ou qu'il y a de la neige ou que vous avez peut-être pas mis assez d'argent dans votre parcomètre, par exemple. Si vous pensez présentement à votre parcomètre et que vous ne m'écoutez pas, votre attention est déficiente. Bon. Ceci étant dit, je continue. La mémoire, donc mettre en mémoire de l'information, le langage, le raisonnement, la résolution de problèmes, trouver une solution à un problème concret dans la vie de tous les jours, c'est une activité cognitive extrêmement demandante, très demandante, parce que souvent, trouver une solution nécessite de trouver un schéma d'action qu'on ne connaît pas encore. Je ne peux pas écrire comme j'ai appris à écrire toute ma vie. Il faut que je trouve une nouvelle idée, une nouvelle façon d'entrevoir une situation. Donc, ces sous-composantes-là peuvent encore plus être décomposés en sous-composants. La mémoire, par exemple. Vous conviendrez avec moi qu'il n'existe pas une mémoire. Il y a différentes mémoires. Par exemple, il y a la mémoire qu'on appelle la mémoire du sens, de la sémantique des choses. Qu'est-ce qu'une table? C'est une mémoire qui se maintient beaucoup avec le temps, ça. La mémoire épisodique, c'est un autre type de mémoire, un autre type de mémoire. La mémoire épisodique, c'est ce que j'ai fait hier exactement à tel moment. Pour en faire la distinction, si je vous demande de me dire c'est quoi un souper, un dîner, vous savez c'est quoi? Vous allez me faire une définition, bien, c'est le fait de s'asseoir en famille ou pas le soir après le travail et de manger. Si je vous demande, donc ça c'est la mémoire sémantique, si je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé pour souper vendredi dernier? Là, il faut que je me situe à vendredi dernier, que je repense à ce que j'ai mangé. Tous les vendredis, je mange des pâtes, donc ça doit être des pâtes. OK? Ça, c'est de la mémoire épisodique. C'est un épisode dans le temps. C'est la première qui va décliner. C'est la première qui va nous jouer des tours. La mémoire sémantique va se maintenir plus longtemps. Qu'est-ce que j'entends ici? C'est, j'ai une forme de mémoire qui ne décline pas avec l'âge. Une autre qui sera plus sensible. Donc, tout de suite, je vous lance des pistes de ce qu'on peut faire pour faciliter une mémorisation, bien, peut-être se servir d'une mémoire plutôt que de l'autre. Bon, on passe rapidement sur la mémoire procédurale, qui est la mémoire du comment faire les choses. Aller pédaler à vélo, c'est apparemment une aptitude qui ne décline pas. Faire du patin, tout ça, c'est un type de mémoire aussi. Mémoriser des actions, des séquences d'actions concrètes, comme conduire. Il y a des gens qui ont beaucoup de pertes de mémoire. On entend souvent dans les journaux parler d'une personne qui aurait la maladie d'Alzheimer, mais qui s'est perdue en auto. J'en conclus qu'elle sait conduire. Elle peut conduire quand même. Elle ne sait pas où elle va, mais elle peut conduire. Donc, il y a quand même des fonctions cognitives qui supportent la conduite automobile qui sont maintenues. Comment ça se mesure? Faisons une expérience ensemble. Je vous présente des mots, et ça pourrait être en laboratoire, ça ressemblerait à ça. La seule chose, c'est que vous seriez dans une salle blanche, vraiment blanche, avec absolument aucune décoration devant un ordinateur où je vous présente des mots, à peu près au rythme d'un mot à toutes les secondes, et je vous demande de les retenir. Si vous avez un crayon, écrivez-les tout de suite quand j'ai fini d'écrire les mots, mais pas en mesure. Je vous lis la liste de mots. Quand je vais lever la tête, ça veut dire que la liste est terminée, vous les écrivez. D'accord? Vous n'avez pas le droit de les écrire avant. Faites travailler votre mémoire. Donc, la consigne sera de rappeler par écrit la liste de mots suivante. Sable. Avion. Vélo. Tabac. Livre. Lapin. Bière. Auto. Chaise. Plante. Soupe. Orange. Violon. Ciseaux. Et pomme. Je vous laisse quelques secondes. Ça va? Alors, quels sont vos résultats, vous pensez? Et pourquoi, qu'est-ce que ça m'informe? Dans quoi ça m'informe de vous faire apprendre une liste de mots? Bon, d'abord, c'est tout de suite, je peux vous le dire, j'utilise des mots du langage connu, mais qui n'ont rien à voir avec le contexte, comme vous avez pu le constater. Donc, je teste votre mémoire épisodique. Ma consigne, c'est, rappelez-vous, les mots de la liste. Il faut vous remettre dans le contexte où j'ai lu une liste. Si j'en avais lu une dizaine, j'aurais pu vous dire la première liste maintenant. Il faut se remettre dans le contexte de la première liste et rappeler les mots. Donc, je teste un peu là, votre mémoire actuelle, à relativement court terme. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'après vous avoir fait ça une dizaine de fois, vous avoir fait apprendre des mots une dizaine de fois, je vais vous demander de me les mettre dans le meilleur ordre possible. Okay? Souvent, les gens vont le mettre dans l'ordre d'apparition des mots. Ils vont commencer par les premiers mots, puis ils vont finir par les derniers. Souvent, les gens vont se dépêcher de mettre les derniers mots parce qu'ils sont en mémoire qu'on appelle mémoire à court terme. Ça fait moins longtemps que je les ai entendus. Et ce que ça va me permettre de faire, c'est qu'en positionnant les mots selon l'ordre de présentation, je vais pouvoir vérifier une mémoire à plus ou moins long terme, Et je vous le dis, dans 3 jours, rappelez-vous cette conférence, et je suis certain que quelques-uns des premiers mots de la liste seront encore en mémoire. OK? À court terme, c'est les derniers mots rappelés. Donc, violon, ciseaux, pommes. Et très souvent, ces derniers mots-là, ils sont oubliés très rapidement. Donc, les gens vont se dépêcher à les mettre, à les rappeler. Ce que ça me donne sur le graphique, c'est que j'ai une courbe comme ça qui montre qu'il y a certains mots qui sont rappelés à court terme, d'autres à long terme. Ces mots à court terme sont souvent très sensibles au vieillissement, tandis que ceux-là, un peu moins. Là, faites-vous-en pas là, si ça n'a pas marché, parce qu'on est en grande salle. Et comme je vous disais, on fait ça en laboratoire de façon très stricte, très contrôlée. On fait ça plusieurs fois en général. Okay? D'autres façons d'évaluer la mémoire. La cognition. L'attention, par exemple. Je vous parlais d'attention tout à l'heure. Comment je fais pour évaluer votre aptitude à faire une chose à la fois, à vous concentrer, à m'écouter sans penser à votre parcomètre? Il y a plusieurs façons de le faire. Une façon assez connue, c'est d'évaluer d'abord l'attention sélective. L'attention sélective, c'est partout dans la vie de tous les jours. Si vous n'aviez pas écouté mes mots tout à l'heure, vous ne pouviez pas les écrire. Il faut d'abord porter attention à une source d'information. Mais il faut aussi parfois chercher rapidement l'information. Si vous êtes dans la foule, vous cherchez à rejoindre un ami, une amie, il y a plein de gens, il faut que vous soyez capable d'identifier la personne. C'est un peu comme si j'avais la capacité de rendre plus saillante la personne que je cherche. Ça fait un peu ce phénomène aussi, on l'appelle le « cocktail party effect » en anglais, donc l'effet du party. Vous êtes dans une foule, vous entendez plein de bruit, plein de monde parler, mais vous arrivez quand même à avoir une discussion avec un interlocuteur. Un peu comme si la voix de cette personne était amplifiée et que la voix des autres était diminuée. Mais entre vous et moi, c'est un effet de votre cerveau, ça, parce que tout le monde parle à peu près, et de toute façon, il y a tout le temps quelqu'un qui parle plus fort à côté. Donc, la personne à qui je parle, elle ne parle pas plus fort, mais j'ai l'aptitude, mon cerveau a l'aptitude de mettre plus saillant cette voix-là et d'enlever les autres. Rendre plus saillant cette voix-là, c'est mon aptitude d'attention sélective qui va faire ça. Comment je contrôle ça ou que j'évalue ça en laboratoire? Je vais présenter rapidement des listes d'items aux gens, par exemple des lettres, et je vais leur dire rapidement de chercher une lettre, puis moi, je vais mesurer le temps que ça prend à cette personne-là pour trouver la lettre. Par exemple, je vous demande de chercher une lettre bleue ou un O dans la présentation suivante, le plus vite possible. 1, 2, 3, go. C'est facile? Vous l'avez? OK, je fais ça une quinzaine de fois, je prends le temps que ça vous prend, puis ça me donne une idée de votre attention sélective. Donc, il y avait des, pour ceux là, qui sont encore endormis, là, sont là, là et là. OK? Une lettre bleue, donc, ou un O? Un ou l'autre? Oh, ben là. J'ai-tu mis un... OK. On va en essayer un autre. Cherchez la lettre T qui est en jaune. Un T jaune. 1, 2, 3. Go. Ah! En général, la deuxième situation est plus difficile que la première. Tantôt, je cherchais un O ou une lettre bleue. Là, je ne peux pas chercher juste un T ou une lettre jaune. Il y a plein de lettres jaunes puis il y a plein de T. Ça me prend un T jaune. Faut que je cherche deux caractéristiques. OK? Il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'y en a pas. Ben oui, il est ici. OK? Ah, il n'est pas jaune-jaune. OK, bon. Mettons. Bref, vous avez un exercice qu'on peut faire pour vérifier l'aptitude des gens à combiner des attributs quand on cherche des objets. Je cherche une amie qui a un chapeau jaune ou qui a un chapeau brun. Elle a mis un chapeau brun puis elle a un foulard rouge. Bien, ça me prend un visage qui va avec deux caractéristiques. Dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. C'est rare que je cherche un item. C'est complexe, hein? Et il faut en plus que je fasse quoi? Il faut que je me débarrasse des autres items qui me dérangent. Comment je peux tester ça? Ah oui, là, je vous montre un peu comment c'est sensible au vieillissement, si ça vous intéresse. Ce qu'on vient de faire comme exercice, ça s'appelle une recherche visuelle. Ça me permet de mesurer la vitesse de votre attention sélective. Si je compare des personnes jeunes et âgées, Donc, jeune en rouge, âgé en jaune. Je vois que plus les items sont dissimilaires, plus les items, c'est-à-dire similaires, plus les items qui distraient, ceux qui sont autour se ressemblent, comme dans l'exercice qu'on a fait, plus c'est difficile. Plus c'est difficile, plus les personnes âgées ont de la misère. Donc, problème d'attention sélective. Donc, cette attention-là, c'est l'habilité à chercher de l'information, mais pour, comme je disais tout à l'heure, il faut que j'inhibe, il faut que je tasse le reste. Hein? Il faut que les autres voient, il faut que je les diminue d'intensité. On appelle ça l'inhibition, la capacité de diminuer la force des informations autour. Une façon de tester ça en laboratoire, c'est avec un test comme celui-ci. Je présente à l'écran d'un ordinateur des séries de lettres de X comme ça, puis je vous demande de nommer la couleur. Donc, rapidement, rouge, vert, dites-moi pas que c'est pas la bonne couleur. Rouge, vert, bleu, rouge, noir, blablabla. OK? Je mesure encore une fois votre aptitude à le faire en mesurant le temps, puis les erreurs que vous faites. Ensuite, je vais vous demander de faire la même chose, mais pour des mots de couleur. L'encre, je m'occupe de l'encre, hein? Noir, rouge, jaune, vert, bleu, vert, noir, jaune. Ça va vite, hein? Et là, la trappe, elle est là. Vous allez me donner la couleur de l'encre. Rouge, vert, bleu, noir. Plus vite, plus vite. OK? Ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'arrête un processus de mon cerveau qui est automatique chez toutes les personnes qui sont allées à l'école un certain temps, qui savent lire. C'est la lecture. Mon cerveau lit automatiquement les mots que je vois. Quand c'est des mots simples comme les mots de couleur, il le lit. Donc, il faut que j'arrête la lecture pour pouvoir nommer la couleur. Cette aptitude-là, ça s'appelle l'inhibition. Un autre exemple où ça arrive dans la vie de tous les jours, au centre-ville de Montréal, par exemple, ou partout ailleurs sur la route, la lumière tourne au vert. Vous appuyez sur l'accélérateur, mais il y a un piéton qui s'engage. Il faut que j'arrête d'appuyer sur l'accélérateur pour appuyer sur le frein. Hein? Donc, c'est un autre exemple d'inhibition extrêmement important, hein, avec des conséquences beaucoup plus importantes que de se tromper de couleur, vous conviendrez, mais c'est aussi un processus d'inhibition. Encore une fois, cette aptitude-là à freiner une action automatique, que j'appelle l'inhibition, prend de plus en plus de temps à mesure que les gens vieillissent. Okay? Mais on va voir tout à l'heure qu'on peut renverser la vapeur quand on fait ce qu'il faut pour maintenir ce processus-là au maximum. Donc ça ici, vous avez le temps que ça prend pour nommer les couleurs de mots de couleur. Okay? Et vous voyez que les mots qui n'étaient pas contradictoires, il n'y avait pas de problème, mais quand dans la condition incongruente, ça devient de plus en plus difficile. C'est vrai pour les jeunes aussi, là. Mais c'est juste plus vrai encore quand on vieillit, hein? De plus en plus important. Bon, donc j'ai donné des exemples dans la vie de tous les jours. Ça, c'était des exemples de laboratoire, hein? La cognition évaluée en laboratoire. Ce que ça me permet de faire avec un bon ordinateur puis des exemples comme ça, c'est de mesurer chaque personne à la seconde près, de calculer ses erreurs. Comme ça, je peux faire de la recherche. Je peux en mesurer 100 en minimum de temps, puis vérifier quelles sont vos aptitudes cognitives. Mais évidemment, dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus complexe. Hein? Souvent, il faut mémoriser. Souvent, il faut porter attention. Souvent, il faut faire deux choses en même temps. Il faut inhiber. Il faut porter attention en augmentant la saillance d'une information. Pensez à quelqu'un qui chercherait son chemin sur la route, au centre-ville de Montréal, qui ne connaît pas trop la ville, qui pense qu'il se dépêche parce qu'il vient donner une conférence, puis qui sait qu'il va être en retard en plus. Hein? Lui, il n'a pas le temps de penser au parcomètre, c'est certain. Mais s'il pense à tout ça en même temps, puis qu'il ne fait pas trop attention, bien, les conséquences sont importantes. Donc, la cognition dans la vie de tous les jours, c'est un déterminant majeur de qu'est-ce qu'on fait et comment on va réussir à avoir une qualité de vie intéressante. Donc, je vous ai montré des exemples de tests où il y a des changements cognitifs, où il y a des déclins. La mémoire, celle qui est nécessaire pour apprendre des mots, l'inhibition, c'est-à-dire freiner une action automatique, l'attention sélective. Mais tous ces domaines-là ne déclinent pas au même rythme. Et c'est pas vrai que tout décline à partir de 50-60 ans, comme la science le montrait dans les années 50-60. Parce que c'est ça que la science montrait. Et c'est pour ça que monsieur, madame, tout le monde, dans la vie de tous les jours, pense que le cerveau décline nécessairement chez tout le monde. C'est que on a surestimé un peu le déclin intellectuel. Mais on sait de plus en plus que, bon, la mémoire épisodique, comme pour apprendre une nouvelle liste de mots, c'est assez fragile. Si on fait pas attention, si on prend pas des stratégies efficaces, ça décline rapidement. Mais la mémoire visuospatiale décline beaucoup plus tard. Et le langage, qui repose aussi sur la mémoire, décline très, très tard. Et même, des fois, à peu près pas. Sauf, bien sûr, s'il y a des maladies. Et là, c'est pas le cas aujourd'hui. Je vous parle exclusivement d'un vieillissement qui serait dit normal. OK? Donc, un vieillissement comme on le connaît dans la vie de tous les jours, sans maladie ou sans démence. Il faut faire attention aussi aux journaux, hein? Il y a une forte proportion de personnes de 60-70 ans vit un vieillissement normal, sans maladie. Mais on n'en parle pas. Vous savez, c'est comme dans les téléromans. Hein? Tous les gens vivent... C'est pas vrai que tous les gens vivent des relations de couple tumultueuses, comme dans les téléromans. Mais on n'en parle pas, on n'en fait pas de cas. C'est plate, les histoires normales. Mais c'est un peu pareil en science, hein? C'est un peu la même chose. Les gens normaux, on les étudie moins. Entre les composantes elles-mêmes de la mémoire, donc même à l'intérieur d'une composante comme la mémoire, le vieillissement n'est pas au même rythme. Par exemple, la mémoire pour apprendre des mots, comme la mémoire épisodique, va être atteinte beaucoup plus tôt, dans la cinquantaine, la soixantaine, alors que la mémoire du sens des mots, la sémantique des mots, va être atteinte beaucoup plus tard. Donc, pour favoriser votre mémoire, je vais vous montrer des trucs tout à l'heure où on pourrait, par exemple, tirer profit de cette mémoire sémantique intacte, d'accord? Pour contrer une mémoire épisodique un peu plus fragile. Donc, si on résume le portrait du vieillissement cognitif, on peut le résumer ainsi. Vous auriez sur un graphique une performance cognitive, à un test de mémoire ou un test de recherche de lettres, par exemple, qui serait ici, d'accord? Et l'âge, donc de 20 à 30, à 40, à 50, à 60 ans, jusqu'à 90 ans. Et vous auriez une diminution progressive, avec une chute plus marquée autour de 70 ans, de la vitesse de réaction, de la vitesse intellectuelle, de l'attention, de la mémoire dite épisodique, avec quand même un maintien relativement bon, et même une augmentation dans certains cas, des connaissances, de l'expertise, du langage. Un expert, ça a rarement 25 ans. Vous conviendrez avec moi. Hein? L'expertise, ça se développe au fil des années à mesure qu'on accumule des connaissances. Les connaissances augmentent avec l'âge. Ces connaissances-là peuvent, on pense, et c'est vrai dans les études scientifiques, que l'accumulation de connaissances peuvent souvent combler ou compenser une perte au niveau intellectuel. Donc, une perte de vitesse, par exemple. Un expert va résoudre un problème aussi rapidement qu'un jeune parce qu'il en a tellement vu de problèmes qu'il n'a pas besoin de faire l'analyse détaillée de tous les détails. OK? Je vous ai dit que la science appuyait tout ça. Je vais vous en montrer un peu de science. Pour vous dire que les changements cognitifs s'appuient en grande partie sur le patron de vieillissement du cerveau. Donc, le cerveau, vous en avez un exemple ici, vous savez que le cerveau est dans la tête, hein, et qu'il se compose de différentes régions, qu'on appelle des lobes. Et les régions du cerveau vont supporter des fonctions intellectuelles différentes. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle les régions frontales, les régions pariétales, les régions occipitales. Les occipitales sont très, très impliquées dans la perception, voir des images, détecter des lettres comme tout à l'heure. Mais il y a une interaction entre ces régions-là. Par exemple, le frontal sert beaucoup plus à contrôler votre cognition, contrôler votre attention. Quand vous m'écoutez comme ça, là, votre frontal travaille très fort. Mais il parle aussi à votre région temporale, qui sert à emmagasiner l'information en mémoire. D'accord? Et comme vous voyez à l'écran ce que j'ai écrit, ben, votre région occipitale aussi. Donc, toutes ces régions-là parlent entre elles, et il se trouve que les connexions entre ces régions-là diminuent avec l'âge, si on ne les stimule pas et si on n'entretient pas notre cerveau au maximum. Okay? Il y a une hypothèse à l'heure actuelle dans la littérature scientifique qui dit quelque chose comme « utilise-le ou perds-le ». En anglais, on dit « use it or lose it ». Okay? Et cette hypothèse-là serait en grande partie appuyée par ce qu'on appelle la matière blanche, c'est-à-dire les faisceaux qui connectent ici. Ça, c'est un vrai cerveau, un vrai scan, qui connecte donc les grandes régions du cerveau. OK? Ce sont les régions frontales qui seront touchées le plus. Mais on va voir que ce sont aussi les régions qui réagissent le mieux à certaines interventions. Ça m'amène à mon point 3. Il existe des modérateurs du vieillissement. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que ça va? Non? OK. Donc, maintenant qu'on sait comment on mesure la cognition, maintenant qu'on sait à quoi ça ressemble un cerveau, et qu'on sait aussi quelles sont les régions du cerveau qui supportent la cognition, juste une chose que je dois vous dire aussi, c'est que ces régions-là, temporales, mémoire, frontale, contrôle de l'attention, sont les plus sensibles au vieillissement. D'accord? On parle parfois d'une perte de volume de 5 % par année à partir de la trentaine. Par décennie. Non, ben même à ce rythme-là, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui. Donc, par décennie, OK? Donc, et évidemment, parce qu'elles ont été développées plus tard, avec l'âge, ces régions plus fragiles, comme les régions frontales et temporales, vont décliner plus tôt. Ce sont les régions qui sont développées plus tard lorsque le fœtus se construit dans l'utérus. Ce sont les régions développées plus tard aussi dans l'histoire phylogénétique de l'humanité. OK? Donc, ce sont des régions supérieures, beaucoup plus actives et fonctionnelles chez l'être humain que chez les autres types de primates. Donc, elles sont aussi sensibles. Elles ont été vascularisées plus tard. Elles seront sensibles plus aussi à la remise en forme physique, par exemple, comme on va le voir tout à l'heure. Vous savez, les études actuelles montrent, quand on était sur les bancs d'école, quand moi j'étais sur les bancs d'école dans les cours de neuro, on nous disait que les régions frontales se développaient jusqu'à avant l'adolescence. Aujourd'hui, il y a même des études récentes qui suggèrent que ça se développe plus tard, même presque jusqu'à la vingtaine, chez les jeunes femmes et hommes. Et une blague qu'on fait souvent dans nos cours, c'est plus tard encore chez les hommes. Quand les régions frontales se développent chez les hommes, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Donc, mais c'est pas vrai, c'est des blagues, hein? Donc, ça m'amène à mon point 3. Il existe des modérateurs. Il y a des façons de mener une vie qui favorisent. Je ne vous dis pas que c'est la fontaine de jouvence, hein? Je ne veux pas qu'on parte d'ici en se disant « Bon, ben, je vais renverser toutes ces années de mauvaise vie en allant m'entraîner et faire du sport. » Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de maximiser un potentiel cérébral qu'on a présentement. Bon, ce qui a été étudié le plus dans la littérature scientifique, c'est le niveau scolaire, le niveau de scolarité. Pour des raisons évidentes, c'est facile à mesurer. En science, on essaie de mesurer. Si je vous passe un questionnaire, je vous demande de remplir dans le questionnaire le nombre d'activités intellectuelles que vous faites dans la semaine, comme venir écouter des conférences, comme écouter des émissions importantes à la télé, comme lire des journaux, et le nombre d'heures, je sais que votre estimation ne sera pas tout à fait exacte. Et en plus, elle va varier selon votre humeur. Hein? Et selon la semaine que vous avez vécue. Alors, j'essaie de trouver des critères objectifs. Et un critère objectif, c'est clairement la scolarité. Parce que c'est facile, je peux le retracer. Je peux vérifier jusqu'où vous êtes allé à l'école, puis selon la période pendant laquelle vous êtes allé à l'école, je peux aussi avoir une idée de la stimulation que vous avez vécue parce que vous avez eu à atteindre des critères fixes. Passer une troisième année, passer une quatrième année, le cours classique, par exemple, je peux aller voir. J'ai juste à trouver un vieux prêtre à quelque part qui enseignait dans ce temps-là, puis il va m'expliquer c'était quoi le cours classique. D'accord? Fait que pour moi, c'est un outil, c'est une mesure. Mais évidemment, ça s'est passé tôt dans la vie d'une personne. Fait qu'il faut aller voir aussi les activités stimulantes cognitivement aujourd'hui ou après la retraite. Et il y a de plus en plus d'études qui vont commencer à dissocier ça, les activités intellectuelles avant la retraite et après la retraite. Mais c'est très nouveau, il faut y aller tranquillement. Et bien, évidemment, l'activité physique serait un modérateur important. On sait que ces trois modérateurs-là ont des effets réels. C'est-à-dire que quand on regarde, et là je vous mets un peu de science là-dedans, parce qu'il faut comprendre quand même comment la science mesure ces choses-là, surtout parce qu'on lit les résultats dans les journaux. Hein. On va lire dans Le Devoir, dans la presse, les week-ends, des résultats sur des études auprès des personnes âgées. Bien, comment ça se passe, ces études-là? On va voir qu'il y a trois types d'études. Il y a ce qu'on appelle les études longitudinales, où on suit des personnes, transversales et interventions. Donc, une étude longitudinale, qu'est-ce que ça fait? ça suit les personnes pendant un certain nombre d'années. Par exemple, il y en a plusieurs en cours dans le monde à l'heure actuelle. Au moment où on se parle, il y en a plusieurs aux États-Unis, il y en a en Australie, en France. Il y en a une qui est terminée au Canada à la fin des années 90, qui a été beaucoup citée dans le monde. Et il y en a une nouvelle qui est en préparation. Moi, je ne sais pas si elle va commencer un jour, parce que c'est très difficile de faire ces études-là. Ça demande des milliers et des milliers de personnes et beaucoup, beaucoup de gens impliqués. Mais on va faire, par exemple, la chose suivante, on va demander à 2-3 000 personnes de commencer une étude dans les années 40 et on va les suivre à toutes les décennies et le retester comme ça. Par exemple, ici, on ferait un test dans les années 40 et dans les années 60. Ce que ça nous dit, c'est que ça nous permet de voir l'évolution d'une même personne par rapport à elle-même. Donc, c'est très précis. Mais c'est aussi sensible à ce qui se passe dans la vie. Hein? Si je mesure, moi, comme psychologue, le stress des personnes âgées, je suis intéressé à l'effet de l'âge sur le stress. Donc, je me dis, je vais tester tout le monde à 60 ans, puis je vais les retester à 75 ans. Mais entre-temps, il y a une guerre. Puis je me rends compte que mes gens, quand je les reteste à 75 ans, sont hyper stressés. Bien, vous pourriez me dire, c'est pas l'âge, c'est un événement environnemental qui est la guerre. Donc, il faut faire attention à ces études-là quand même, mais ce sont des très bonnes études à suivre. Ce sont souvent des études citées dans les médias, hein, en passant. Et ce que ces études nous montrent, c'est que les personnes qui pratiquent des activités stimulantes montre moins de déclin avec le temps. Donc, une personne qui va rester active, au bout de 5-6 ans, même pas besoin d'être très long, va montrer moins de déclin intellectuel qu'une personne qui ne reste pas active. Même si, au départ, elles étaient équivalentes. D'accord? Un exemple un peu plus sérieux, une étude de Wilson, publiée dans les années 2000, aux États-Unis, avec 800 membres du clergé, des prêtres, des sœurs, des frères, donc d'un ordre religieux donné. Ça, c'est vraiment génial pour un chercheur. Imaginez, hein? Ils mangent la même chose, ils s'habillent pareil, ils ont eu les mêmes cours, ils pensent pareil et ils croient aux mêmes affaires. Le psychologue est aux anges, hein? Enfin. Bref, je vérifie le fonctionnement intellectuel de ces personnes en relation avec leur activité intellectuelle. Donc, je leur pose des questions. Vous jouez aux échecs? Oui. Combien de temps par semaine? Gagnez-vous souvent? Est-ce que vous lisez des livres? Oui. Lesquels? OK? Je peux mesurer, essayer de quantifier un peu leur fonctionnement intellectuel. Si je compare tout le groupe, ici, vous avez à 0.04, c'est un score arbitraire ici, là, mais en fait, c'est un score composite qu'on appelle, sur plein de fonctions intellectuelles, la mémoire, l'attention et tout ça. Donc, tout mon groupe, après 5 points quelques années, donc à peu près 6 ans, va avoir décliné de 0.04. Prenons ça pour point de départ. Ensuite, je sépare mon groupe selon que les gens étaient très actifs, donc dans les 10% plus actifs, relativement actifs, moyen, 50%, et j'ai dit plus actifs à 10, mais en fait, c'était les 10% moins actifs, et dans les 90% plus actifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je prends mon groupe de personnes, c'est comme si je vous le faisais à vous, je vous passe le questionnaire, je vous divise ensuite. Je prends les 10 plus actifs, les 10 moins actifs, puis dans le milieu, la courbe normale, les gens normaux. OK? Et ce que je vais constater, c'est que par rapport au groupe au complet, donc toute la salle présentement, les moins actifs vont montrer un petit peu plus de déclin cognitif au bout de 6 ans. C'est pas long, hein, 6 ans. Les gens commençaient l'étude à 60-65 ans, là. Mais ceux qui sont restés pendant cette période-là les plus actifs montrent moins de déclin cognitif. C'est vrai pour le déclin global, 47% moins de chances. C'est vrai pour la mémoire, 60% moins de chances. C'est vrai pour la vitesse, un peu comme la vitesse pour chercher des lettres comme on a fait ensemble, la vitesse perceptuelle, OK? Trouver visuellement une cible. C'est 30% moins de déclin chez les personnes qui restent actives parce qu'elles maintiennent cette aptitude probablement. Et tout ça est vrai, même si je contrôle pour l'âge initial au début de l'étude, pour le genre, pour le niveau scolaire, pour le type d'emploi, parce qu'ils peuvent avoir des emplois différents, pareil, dans la communauté religieuse. D'accord? Donc, ce n'est pas une question de différence à l'origine, c'est une question de différence de style de vie. C'est encore plus évident quand je fais ce qu'on appelle des études transversales. Qu'est-ce que c'est une étude transversale? Une étude transversale sont aussi quand même citées dans les médias, mais je dirais beaucoup moins que les études longitudinales. Donc, pourquoi les faire? Parce qu'elles coûtent moins cher, parce qu'elles sont plus faciles à faire. Les études longitudinales, comme on vient de voir, coûtent très cher, durent très longtemps. Si je fais une étude sur 20 ans, bien, ça me prend des chercheurs qui vont la faire pendant 20 ans. Hein? Donc, ne commencez pas ça à 55 ans dans votre carrière, vous ne pourrez pas la finir, voyez-vous. Donc, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études transversales. Une étude transversale, ça se passe comme ceci, c'est-à-dire que les gens, par exemple, dans les années 60, viendraient faire mon étude, moi j'en fais couramment des études comme ça. Ce que je fais ici à l'UQAM, l'autre côté de la rue, c'est que j'évalue des jeunes adultes de 20 à 35 ans que je compare à des gens dans la soixantaine ou dans la soixantaine avancée. On aime beaucoup avoir des jeunes vieux et des vieux vieux, hein, des 55 à 70 ans puis des 70 ans en montant. Et ce que ça me permet de voir, c'est des différences liées à l'âge. Par exemple, vous avez ici un effet d'âge typique dans un rappel d'histoire. Je lis des histoires aux gens, je leur demande de me rappeler l'histoire. Okay? Donc, c'est une étude transversale où je compare des jeunes en rouge et des aînés en jaune. Mais ce que les études montrent aussi, c'est que si je m'intéresse aux gens qui ont maintenu un niveau actif intellectuellement ou qui sont allés à l'école plus longtemps, par exemple, ici, c'est une étude sur l'effet de la scolarité, donc le niveau haut de scolarité, c'est une étude française. La différence liée à l'âge, ce qui m'intéresse ici, c'est jusqu'à quel point les aînés sont moins bons en mémoire. Il n'y en a plus de différence. Okay? Ça veut dire que ce n'est pas vrai que le simple passage du temps fait disparaître la mémoire. Il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte, qui n'est pas le passage, parce qu'ils ont le même âge, là, mes aînés, dans les deux groupes. Donc, il y a quelque chose que ces gens-là faisaient qui leur ont permis de garder leur mémoire performante. Voyez-vous? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Bien, on ne le sait pas encore parfaitement. Le cerveau, ce n'est pas connu depuis très longtemps. On n'étudie pas le cerveau depuis très longtemps. Le cerveau, comme on l'étudie présentement, grâce aux nouvelles technologies, ça fait quelques décennies qu'on peut le mettre en image comme on le fait présentement. Dans la littérature scientifique, il y a beaucoup d'études chez les animaux, mais chez l'humain, c'est très difficile. Mais ce que les études nous proposent comme modèle pour comprendre, c'est que le cerveau, d'abord, il compense. Hein? C'est un organe actif. C'est un organe majeur, actif dans toutes nos activités de la vie quotidienne. Ça, c'est un cellulaire. Ça fait des ondes, les cellulaires, vous savez. Donc, ça compense. C'est-à-dire que des connaissances, comme je le disais un peu plus tôt, générales, l'accumulation de connaissances dans la vie de tous les jours, va compenser pour un déclin associé à l'âge, pour un déclin de la vitesse, par exemple, de recherche visuelle. Les connaissances accrues vont faire en sorte qu'une personne âgée sait plus à quoi s'attendre, va anticiper davantage les situations de la vie quotidienne, va avoir plus de connaissances verbales. Un test de mémoire qui repose sur le langage, si le langage augmente, cette personne-là a des outils pour compenser, voyez-vous. Peut-être parce qu'elle connaît plus de mots. Donc, si je fais faire un test de mémoire de langage aux personnes très scolarisées, qui ont 65-70 ans et qui ont lu toute leur vie, bien, c'est des mots plus familiers, donc plus faciles à retenir, que pour un jeune adulte qui ne lit pas. Ça ressemble à ça, la compensation. Dans un scanner, ça ressemble à ça. Vous avez ici un jeune adulte qui nous regarde. Hein? Ça, c'est son cerveau pendant qu'il nous regarde. Donc, ici, il y a deux trous où on mettrait les yeux. Et ça, ce sont ses lobes frontaux. Donc, il est comme ça, et ce sont ses lobes frontaux. D'accord? Pendant qu'il fait un test de mémoire, il recrute cette région du cerveau qui est à droite. Donc, on se dit, cette région-là, elle est beaucoup recrutée pendant un test de mémoire verbale. Les mêmes personnes âgées, les mêmes régions vont être recrutées par les personnes âgées. Mais ce sont des personnes âgées qui n'arrivent pas à avoir des bonnes performances en mémoire. Hein, je vous disais au début de la conférence qu'ils sont très hétérogènes, les personnes âgées. Pour deux personnes âgées qui n'ont pas des bonnes performances en mémoire, j'en ai une qui est aussi bonne que les jeunes, ou à peu près. Et la personne qui n'est pas bonne, ici, elle me fait les mêmes stratégies, dans le fond, que la personne jeune. Elle utilise les mêmes régions de son cerveau. Mais quand je regarde celles qui sont bonnes, donc qui ont les mêmes réussites en mémoire que les jeunes, comme on vient de voir dans l'acétate précédente, OK? Je regarde leur cerveau en action à l'aide d'un scanner, et je me rends compte qu'elles recrutent une autre région du cerveau que les jeunes ne recrutent pas. Comme si ils allaient chercher dans l'autre sphère cérébrale, dans l'autre hémisphère, des ressources intellectuelles pour compenser, peut-être, on pense, un déclin du cerveau dans d'autres régions. D'accord? Donc ça, ce serait l'hypothèse de la compensation. C'est une hypothèse, c'est en cours d'étude encore. Il y a beaucoup d'études qui s'attardent à comprendre comment ça fonctionne et si ça fonctionne bien. Il y a aussi l'hypothèse d'une réserve cérébrale, c'est-à-dire que malgré des changements physiques du cerveau, le cerveau resterait plus connecté, si on veut. Les cellules nerveuses se connecteraient davantage à force qu'on reste stimulé intellectuellement. Je vous ai donc montré des évidences de stimulation intellectuelle venant de deux types d'études. Hein? Les longitudinales, je suis les personnes, les transversales, je les compare à des jeunes. Je vous ai montré des évidences que ces gens-là, les gens stimulés intellectuellement vieillissent mieux, perdent moins de mémoire et de vitesse cognitive, et ça fait en sorte qu'ils sont plus comparables aux jeunes, même s'ils ont 60-70 ans. Là, vous pourriez me dire, oui, mais... Hein, c'est bien beau, là, ça fait des années que je lis ce genre d'études-là dans les journaux, mais quelque chose m'agace. S'il y avait une différence à l'origine, si à l'origine, il y avait un gène qui protège ces gens-là, est-ce que je peux m'en sortir quand même? Comment je fais pour savoir? Bien, il y a évidemment un lien de causalité qui n'est pas mis en évidence dans ces études-là. Qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que ces gens-là étaient plus actifs intellectuellement à l'origine ou plus vifs intellectuellement, de sorte que très jeunes, ils ont pu garder un style de vie plus stimulant? Par exemple, c'est ce que je décris ici, on appelle ça une relation circulaire. Hein? Donc, la stimulation amène la vitalité, mais à l'origine, c'était peut-être la vitalité qui me permettait de rester actif. Pour comprendre ou pour confirmer que ce n'est pas le cas, ce que je peux faire comme chercheur, c'est faire une étude dite d'intervention. C'est-à-dire que je vais prendre des gens au hasard dans la population, je pourrais vous demander de faire mon étude, et vous... vous amenez dans un programme de stimulation intellectuelle et vérifiez comment vous allez réagir. Donc, vous êtes pris au hasard. J'ai aucune idée. Vous devriez au hasard, en principe, avoir certains des gènes protecteurs, d'autres non. Certains un mode de vie favorable, d'autres non. Je ne le sais pas. Mais au hasard, je vous fais faire un programme de stimulation intellectuelle et l'autre moitié du groupe, je ne vous le dis pas, mais je vous fais faire des activités bidons qui ne servent à rien pour votre cerveau. Ensuite, je vous compare puis ça va me permettre de voir si ça fonctionne. Et les études qui ont fait ça, des études d'intervention, qu'on appelle aussi des études d'entraînement cognitif, d'entraînement intellectuel, suggèrent que les aînés, les personnes de 60-65 ans et plus, comme les jeunes, peuvent améliorer leur cognition. Ça a été prouvé dans les études d'entraînement pour l'attention, pour la vitesse de réponse, pour la vitesse intellectuelle. Par exemple, on peut s'entraîner en attention comment? En s'habituant à faire deux choses en même temps. Les gens qui restent actifs et qui conduisent beaucoup probablement développent ça. Regarde, par exemple, on a montré dans des études à Londres que les régions du cerveau qui supportent la mémoire spatiale sont mieux maintenues chez les vieux chauffeurs de taxi. Parce que, si vous êtes déjà allé à Londres, vous conviendrez avec moi que c'est pas facile de s'y retrouver. Puis ces gens-là, ben, ils stimulent la localisation spatiale constamment. Ils sont obligés de la faire. On peut entraîner sa vitesse cognitive en cherchant des informations rapidement, par exemple en se poussant dans l'environnement, dans nos activités de la vie quotidienne, à faire des actions rapides, en sortant un petit peu de sa zone de confort, en se forçant à faire les choses plus rapidement, lire plus rapidement, faire des jeux plus rapidement. Okay? On peut même entraîner sa mémoire en développant des stratégies qui tirent profit des aspects de la mémoire qui sont moins touchés, par exemple la mémoire sémantique. Là, vous pourriez me dire, ceux en passant qui se demandaient au début de la conférence pourquoi je m'évertuais à vous montrer comment fonctionne la mémoire. Hein? Ceux qui avaient hâte de voir des trucs, on arrive aux trucs, là, mais pourquoi je vous montre comment ça fonctionne? Pas juste pour vous faire comprendre les études, mais parce qu'une des techniques, une des interventions qui marche le plus, c'est d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Dans les études en mémoire, on a découvert que même si je vous entraîne avec des trucs, on appelle ça des trucs mnémotechniques ou des stratégies mnémotechniques, hein? Vous avez peut-être entendu parler de ça dans les journaux ou un peu partout, même si je vous les fais apprendre par cœur comme des petits robots, ça ne marche pas, ou très peu. Il faut que je vous enseigne aussi comment fonctionne la mémoire. Le meilleur truc, donc, c'est d'enseigner des stratégies, mais en enseignant aussi ce qu'on appelle de la métacognition, l'aptitude à savoir comment fonctionne ma cognition. OK? Ça marche aussi à l'université chez les jeunes. Hein? Quand on leur montre comment prendre des notes, ils sont meilleurs. Quand on leur montre comment apprendre, ils deviennent meilleurs. Il y a des livres publiés là-dessus, hein? Comment apprendre, savoir apprendre, ainsi de suite. Mais ça, bon, je n'ai pas vérifié tous les livres, là, on ne partira pas en peur, mais en général, c'est essentiel à une bonne intervention. Comment ça peut se faire, entraîner sa mémoire? Il y a plein de stratégies. Mais je vais vous en dire deux familles de stratégies. Vous pouvez développer des techniques qui sont à vous, qu'on n'a jamais trouvées, nous, chercheurs, en laboratoire, ça se pourrait. Venez me les dire si vous en trouvez des nouvelles. OK? Si on manque d'idées, comme ça, on testera vos idées. Mais le principe, il est simple. Il y en a deux. Il faut qu'une trace, on appelle ça une trace, il faut qu'un objet que je veux mémoriser fasse une trace durable. Et pour ça, il faut que cette trace-là soit unique. Donc, il faut que l'élément, le truc que je veux retenir soit unique dans ma tête. C'est pour ça que c'est difficile en mémoire épisodique de se rappeler ce que j'ai mangé la semaine dernière. Parce que des soupers, j'en ai 7 par semaine. Puis ça fait un certain nombre d'années que j'en ai 7 par semaine. Puis je mange souvent les mêmes affaires. Fait que là, associer ce que j'ai mangé il y a quelques jours à un souper, ça devient difficile. Il faut que je les mette ensemble dans le temps. Il faut que je les rende uniques. Il faudrait qu'il se soit passé quelque chose. Ah, quelque chose. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose vendredi dernier au souper? S'il s'est passé quelque chose, une amie est venue me voir, un de mes frères qui n'était pas venu depuis longtemps, tout de suite, je vais me souvenir ce qu'on a mangé. Hein? Avouez que ça marche en général. Parce que ça a le fait que la trace est unique. Et si je me suis rappelé de la trace, mon cerveau a refait la construction de l'événement en me rappelant les détails. Donc, premier point, rendre l'information unique. Il y a plein de stratégies qu'on vous enseignera dans les livres, mais on ne passera pas trop de temps là-dessus aujourd'hui. Utiliser des images mentales. Se faire une image mentale avec un événement. Je vais vous en donner un exemple tout à l'heure. Associer une liste de mots, par exemple, une liste d'épicerie à des lieux. On dit souvent aux gens, vous voulez apprendre une liste d'épicerie, faites-vous un tracé mental stable de votre épicerie. Si vous allez toujours aux mêmes épiceries, c'est encore mieux. La section légumes, la section viande, ainsi de suite. Vous faites un tracé mental que vous apprenez par cœur. Ça peut être dans votre maison. Faites-vous un tracé mental de votre maison. J'arrive, je mets mon manteau, je vais dans le corridor. Ensuite, je vais dans ma chambre porter mon sac. Ensuite, je vais dans la cuisine faire telle chose. Quand j'ai une liste de mots à apprendre, je la place dans mes lieux et je les image en tête. Quand vient le temps d'y retenir, ou d'y rappeler plutôt, quand quelqu'un me dit « Hey, qu'est-ce que je t'avais donné comme liste d'épicerie? » Ce qui me reste à faire, c'est de refaire le parcours mental. Et normalement, les nouveaux mots devraient apparaître, si j'ai bien fait mon encodage, j'ai bien mis en mémoire. Le deuxième principe, il est contradictoire au premier. Là, vous allez me dire, bon, il ne sait pas ce qu'il dit. Ben oui, il est contradictoire, mais il est complémentaire. C'est que, autant la trace doit être unique, autant il y a tellement d'informations que la seule façon de s'en sortir, c'est de mettre les informations qui vont ensemble, ensemble. Et on appelle ça l'organisation. On appelle ça faire des liens entre les mots qu'on veut retenir, par exemple. Faire des liens entre les items. OK? Par exemple, créer une histoire ou une comptine à partir d'une liste de mots qu'on voudrait apprendre. En laboratoire, il y a des gens qui le font spontanément. On leur donne une liste de 20 mots, ils se racontent une histoire. Ils ont 18 sur 20 dans les 20 mots. 19 sur 20. On dit « Wow! » 70 ans, pas de problème de mémoire, est meilleur que les jeunes. On parle un petit peu avec, la personne, elle me dit « Ah, mais moi, quand je vois une liste de mots comme ça, je me raconte une histoire. » Puis c'est super efficace. Elle a fait du sens. Elle a mis du sens à une liste de mots qu'il n'y en avait pas. D'accord? Grouper les items par famille, les mettre par catégorie, les fruits ensemble, et ainsi de suite. Un exemple connu de méthode d'association visage, c'est la méthode d'association visage-nom. Je vous disais, il faut faire des images mentales pour rendre les choses uniques. Pourquoi je vous présente celle-là? Parce que, bon, d'abord, elle est très efficace. Deuxièmement, parce que c'est une source de plainte majeure. Chez les gens assez âgés, les vieux, les gens vont souvent nous dire ça dans le laboratoire. Ils vont me dire, moi, je ne sors plus parce qu'à chaque fois qu'on me présente quelqu'un de nouveau, je ne me souviens pas de son nom. Ça vous arrive peut-être. Faites-vous-en pas, ça m'arrive toujours. Ce n'est pas juste l'âge qui fait ça, c'est souvent l'inattention. Il y a des stratégies pour ça. Hein? Répéter le nom de la personne quand les vendeurs d'auto, je ne veux pas choquer personne, mais les vendeurs d'auto, ça me frappe à chaque fois que je magasine une auto. Ils font ça. Hein? Si un jour j'ai les moyens de m'acheter une maison, peut-être les vendeurs de maison le font, là, je ne sais pas, je vous le dirai. Mais les vendeurs d'auto le font. Bonjour, vous cherchez une maison, monsieur, une auto, monsieur, je me cherche une maison, une auto, monsieur Bérard. Ah, monsieur Bérard, il répète le nom, c'est fou. Puis là, je lui dis, ah non, moi je veux une plus grande auto, j'ai des enfants. Ah, monsieur Bérard veut une plus grande auto. Il n'arrête pas de dire mon nom, pourquoi? Peut-être qu'un agent qui a montré à faire de la vente, lui a dit, c'est bon, le client se sent en confiance, puis tout ça. Mais moi, je peux vous dire que le fait de répéter un nom, c'est la seule méthode, bien, pas la seule, mais c'est une des méthodes les plus utilisées pour retenir un nom. Puis on le fait pas spontanément. Hein? Même moi, là, je la connais la technique, puis je la fais pas. Fait que c'est quelque chose à développer, c'est un réflexe à développer. La méthode d'association visage-nom, c'est une autre méthode. Créer, mais ça, c'est quand vraiment vous vous rencontrez des gens peu fréquemment, puis vous voulez vraiment, vraiment pas oublier le nom d'une personne. On essaie d'associer une caractéristique d'une personne à un objet visuel, puis de faire un lien entre les deux. Encore une fois, on supporte la mémoire verbale avec la mémoire visuelle. On essaie de faire un lien entre les deux systèmes. Par exemple, je vous présente Véronique. Ça tombe bien, Véronique a des gros verres. Hein? Véro, verre, ça sonne pareil. Je vais imaginer un verre, puis je vais imaginer Véronique dans le verre. C'est presque certain que quand vous allez revoir Véronique, je vais arriver pour vous dire, « Te souviens-tu de mon ami? » Si vous repensez à cette image farfelue, pourquoi cette fille-là était dans un verre? Ah, bien, verre, des grosses lunettes. Ben oui, la fille aux grosses lunettes, c'est Véronique. OK? C'est un exemple. Bon, il y en a d'autres. On donne souvent dans les livres. Je me suis forcé pour en trouver une qu'on ne donne pas dans les livres. Dans les livres de mémorisation, on va vous donner une personne qui s'appelle Monsieur Dupont et qui a un gros nez. Je remplace le nez par un gros pont. Quand je le vois, j'imagine un gros pont. C'est Monsieur Dupont. Il n'y en a pas beaucoup au Québec. Je vous lance le défi de me trouver une image mentale avec Monsieur Tremblay. Ça, ce serait intéressant parce qu'il y en a beaucoup au Québec. Enfin, bref. Donc, l'idée, c'est associer une caractéristique visuelle précise d'une personne qui la distingue pour que vous pensiez à cette caractéristique. Hein? Tirez profit. Dites-le pas aux gens, par exemple. Ça peut être insultant. Mais tirez profit des caractéristiques d'une personne. Un gros nez, des grands yeux, des grosses lunettes. Et faites des images mentales. Rendez la trace unique. C'est ça le truc. Donc, conclusion sur la stimulation intellectuelle, pour vous parler un peu ensuite, vous n'êtes pas trop fatigué, ça va? Oui? Ben, c'est bon pour votre cerveau, ce qu'on fait. Hein? Donc, conclusion sur la stimulation intellectuelle, le cerveau possède un potentiel d'apprentissage étonnant, même à un âge très avancé. Retenez ça, puis déjà, on a appris beaucoup. Ça veut aussi dire qu'on peut apprendre un vieux singe à faire des nouvelles grimaces. D'accord? Donc, et ça, là, c'est vraiment la façon de faire travailler votre cerveau. Comme je vous disais, on est encore en découverte, on ne sait pas encore tout ce qui se passe au niveau du cerveau, mais on sait une chose, c'est qu'il y a plusieurs façons de résoudre un problème. Les gens, spontanément, utilisent des stratégies différentes pour mémoriser. Nous, en laboratoire, on ne peut pas tout contrôler, mais plus les gens se stimulent, plus ils trouvent des nouvelles façons de faire des problèmes. Donc, il faut sortir un peu de ces zones de confort puis forcer un petit peu notre cerveau. L'autre modérateur important dont je vous avais promis de vous parler, c'est l'activité physique. Ça, c'est plus nouveau. Hein? Ça fait longtemps qu'on sait que l'activité physique, c'est bon pour la santé. Les médecins grecs le disaient. Un esprit sain dans un corps sain, je pense que ça vient d'un médecin grec. D'ailleurs, je ne me souviens plus de la référence, mais c'est quasi l'époque d'Hippocrate. Okay? Donc, c'est vraiment, ça fait longtemps que les gens savent que rester actif physiquement, c'est bon pour la santé physique. Ce qu'on sait depuis peu, c'est que ça a un effet direct sur le cerveau, et un effet majeur. C'est peu surprenant quand on y repense, parce que le cerveau, c'est un organe. C'est un des 3-4 plus grands organes du corps, les plus volumineux. Il consomme à peu près 20 % du sang que votre cœur pompe à chaque pompe, donc de tout l'oxygène qui est là-dedans aussi. C'est un organe qui carbure à l'oxygène et essentiellement au glucose, à ce qu'on sache jusqu'à maintenant, là, c'est essentiellement ça, l'oxygène. Pourquoi je vous dis l'oxygène? Vous avez vu sûrement des images de cerveau dans les journaux, non? Ou à la télé. Vous en verrez sûrement de plus en plus parce que les techniques d'imagerie se développent de plus en plus. Alors, ce que ces techniques-là font, c'est qu'ils fonctionnent beaucoup sur l'oxygénation du sang. C'est vraiment un organe très alimenté en sang et en oxygène. Ce que nous montrent les études, c'est que, d'abord, les études transversales, hein? Maintenant, vous êtes familier avec ça. Les personnes âgées qui pratiquent une activité physique régulière présentent moins de déclin cognitif associé à l'âge, quand on les compare aux jeunes, que les individus sédentaires. Si j'invite un athlète âgé en laboratoire puis je lui fais faire des tests de vitesse et d'attention, souvent, il va me présenter des performances qui sont presque comparables aux jeunes. D'accord? En mémoire, c'est moins vrai. La mémoire, c'est très complexe. Mais pour la vitesse mentale, la vitesse de recherche visuelle, c'est fréquent. Donc, si je le compare ici à un jeune, sa performance dans certains tests va être plus proche de celle des jeunes que celle des âgés. C'est pas vrai quand je compare des sédentaires. Des gens très sédentaires de 60 ans vont montrer des effets importants liés à l'âge, donc un déclin lié à l'âge, par rapport à des jeunes sédentaires. Okay? Donc, plus je vieillis, plus c'est important d'être actif physiquement. Les études longitudinales, les cohortes de personnes âgées qui restent actives montrent moins de déclin cognitif pour les personnes que les personnes inactives. Et ça, ça marche sur des périodes de 2 à 10 ans. Ça veut dire que même si je les compare toutes au début, les personnes, elles sont comparables au début. Même niveau de santé physique, même niveau de statut socio-économique. Je les suis pendant 6 à 10 ans. Les gens qui, pendant cette période-là, vont maintenir un haut niveau de santé physique vont décliner moins. Ça veut dire qu'ils restent plus vifs intellectuellement aussi. Est-ce qu'il y a lieu de croire que rester actif physiquement, faire du sport, favorise une réserve cérébrale? En fait, oui. Quand on regarde les études très récentes, puis là, je vous montre des vraies données scientifiques d'un groupe de chercheurs, bien, c'est justement à l'Université d'Illinois où j'étais il y a quelques années, ce groupe de chercheurs qui est très actif dans le domaine, ont montré que l'activité physique a un effet bénéfique sur le cerveau des personnes âgées. Une bonne santé cardio-respiratoire, que ce soit de façon chronique ou même une remise en forme de 6 mois, 1 an, va montrer une plus forte densité neuronale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la connectivité entre les régions du cerveau dont je vous parlais tout à l'heure et aussi une plus forte activité au niveau cortical, donc dans les différents lobes qu'on a vus ensemble, surtout frontaux. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure que ce sont des lobes très précocement touchés au cours du vieillissement. Bien, ce sont aussi les lobes qui sont revascularisés le plus rapidement et remis en forme plus rapidement. Ici, vous avez à gauche les régions, donc le cerveau est comme ça, OK? L'œil irait ici, ça c'est le front, ça c'est l'arrière, comme le cerveau qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Ça va? En jaune, vous avez les régions les plus touchées par le vieillissement. Quand je compare des gens très âgés, 70-80 ans, et des jeunes adultes. Plus c'est jaune, plus c'est touché. Vous avez les régions qui sont associées à la mémoire, puis les régions associées aux lobes frontaux, l'attention, la vitesse. Ça ici, c'est quand on voit la tête comme ça. Je la coupe, je la regarde par en haut. D'accord? C'est donc les régions centrales qui connectent mes différentes parties du cerveau. En bleu, les mêmes régions qui s'améliorent avec la condition physique. Donc, il y a tout lieu de croire que les régions qui sont touchées le plus vite sont aussi remises en forme le plus vite. Vous pourriez me dire, bon, ça marche comment? On va voir comment ça peut marcher. Avant de voir comment ça peut marcher, vous pourriez m'arrêter là en me disant, comme j'ai dit tout à l'heure, ils étaient plus actifs, ils étaient plus en forme au début, ils sont restés plus actifs. Ils ont un gène, ils vieillissent moins vite. Mon marathonien de 75 ans, il est protégé génétiquement. Ou il vient d'une riche famille qui mangeait tellement de sushis qu'ils sont en forme. Hein? Qu'est-ce qui va me convaincre, encore une fois, le vrai lien de cause à effet? Un entraînement physique pour revitaliser le fonctionnement cognitif. Donc, pour être sûr que c'est pas l'activité physique, que c'est l'activité physique qui remet en forme cognitivement et non pas le fait d'être en forme cognitivement depuis toujours qui me permet d'être encore actif, parce que vous conviendrez qu'à 75-80 ans, aller s'acheter des souliers de course, s'habiller, aller courir, il faut être cognitivement alerte, là. On fait une étude d'intervention. Dans ce type d'étude-là, un programme d'entraînement physique va être dédié, développé pour les personnes âgées. Je vous donne un exemple ici, c'est une photo qui vient du centre Claude Robillard, du groupe de Lapador. Le groupe Lapador a été très gentil avec moi quand je suis revenu de l'extérieur pour avoir mon travail au Canada, quand je suis revenu à Montréal. Je me cherchais un groupe de personnes âgées actives parce que je n'avais pas encore de laboratoire puis je voulais étudier l'activité physique. Ils ont 1200 à 1500 personnes âgées qui font du sport dans leur groupe et ils m'ont permis de les évaluer. Puis c'est comme ça que j'ai commencé mes recherches dans le domaine. Donc, vous en avez un exemple ici. Ce sont des personnes de 60, 70 ans au centre Claude Robillard dans Annecyc, dans le quartier d'Annecyc, qui fait du sport sur la piste de course du centre Claude Robillard, à la même place que l'Impact s'entraîne, pour ceux qui s'intéressent. Bon. Ce que les programmes d'exercice vont faire, c'est qu'ils vont favoriser la remise en forme cardio-respiratoire, mais aussi souplesse, force musculaire, pour soutenir les activités cardio-respiratoires. Maintenant, on est beaucoup plus équipé que quand j'ai commencé mes recherches. Donc, je vous montre un exemple d'un déroulement d'une étude d'entraînement physique au LESCA. Donc, le LESCA, c'est le Laboratoire d'études de la santé cognitive des aînés, qui est en partie ici à l'UQAM, mais aussi à l'Institut de gériatrie de Montréal. Comment on fait ça, ces études-là? On prend au hasard 50, 60 personnes dans la région de Montréal, des gens volontaires qui ont envie de s'entraîner. On fait ce qu'on appelle un pré-test. On évalue les fonctions cognitives à l'aide de tests, comme je vous ai montré, la mémoire, l'attention, la capacité de lire des mots de couleur, de donner la couleur de mots de couleur, ainsi de suite. Et on évalue aussi leurs conditions physiques. Donc, pour ceux qui connaissent ça, le VO2 max, la capacité maximale d'absorption de l'oxygène dans un effort intense. Donc, la santé cardio-respiratoire d'une personne. On va diviser ces gens-là en deux groupes. Un groupe dit entraînement, un groupe dit contrôle. Le groupe contrôle font des activités dans la vie de tous les jours. Le groupe entraînement, lui, fait vraiment du sport pour améliorer sa condition cardio-respiratoire. Ce qui va m'intéresser comme chercheur, c'est de... Oups, j'ai fait une copie-collée puis j'ai fait une petite faute. C'est un post-test. Donc, on reteste après l'étude. Ce qui va m'intéresser comme chercheur, c'est si j'augmente ici la condition physique, est-ce que j'augmente aussi la condition cognitive? Et si oui, est-ce que c'est spécifique aux gens entraînés? Hein? Vous me suivez? Un exemple. Là, ici, vous avez un groupe... l'avantage chez nous, c'est que c'est fait en sous-groupe, c'est dans une étude. Ce sont des entraîneurs qualifiés. Hein, pour ceux qui s'intéressent, ce sont des entraîneurs qualifiés qui travaillent chez Nautilus Plus à temps partiel ou chez Énergie Cardio et qui font des études à temps partiel ou à temps complet avec moi et que j'engage comme entraîneur. Donc, Martine, par exemple, travaille avec moi depuis 2-3 ans. Elle a accès à tout un laboratoire, un gym, en fait, avec des équipements destinés aux personnes âgées. On a des vélos assis pour les personnes âgées qui arrivent avec une canne, qui sont moins en santé, parce que c'est pas dédié aux athlètes, c'est dédié à monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde, bien, des fois, tu tombes sur une personne de 85 ans qui court à chaque semaine, mais des fois, tu tombes sur une personne de 75 ans qui, pour des raisons qui sont les siennes, ont eu soit des maladies chroniques, ou ont eu soit des accidents, ou ont eu soit des événements qui ont fait en sorte qu'ils ont développé des incapacités. Donc, ils arrivent avec une canne, puis je vous jure que ces gens-là peuvent quand même profiter de l'entraînement physique. Donc, on a des vélos assis pour les gens qui ne peuvent pas courir sur un tapis. Et ce qu'on a montré, c'est que seulement 3 mois d'activité physique, 3 mois, ça, c'est des vraies données de notre laboratoire, ont permis... de notre groupe contrôle rouge comparé à notre groupe contrôle en bleu, d'améliorer d'à peu près 25 % la santé physique, telle que mesurée par des tests cardio-respiratoires. C'est beaucoup, 25 % en 3 mois. C'est pas long, 3 mois. Hein? C'est les vacances d'été pour l'université, ça. Et regardez ce que ça montre sur les tests cognitifs. Donc, ça améliore aussi les tests cognitifs. Vous vous souvenez du test? Hein? Il faut donner la couleur de l'encre. On appelle ça un test d'interférence, ça c'est du jargon, mais dans le fond, c'était inhiber un peu les mots, la lecture des mots. Notre groupe entraîné s'améliore. Et en plus, dans un test où un peu plus compliqué, on leur demandait des fois de lire la couleur, des fois de lire le mot. On est pas correct, là. On fait vraiment travailler les gens très fort. On a montré que notre groupe entraîné en rouge s'améliore significativement et que notre groupe non entraîné n'a pas changé au bout de 3 mois. Donc, ça veut dire que quand j'améliore la santé cardio-respiratoire d'une personne, j'améliore aussi ses performances intellectuelles, au moins dans ses tests d'attention et de vitesse cognitive. Donc, l'impact de l'entraînement physique sur les fonctions cérébrales sera de maintenir l'intégrité cérébrovasculaire en favorisant le transport d'oxygène et en améliorant le flux sanguin. Donc, le flux sanguin, hein, il amène des nutriments, il amène de l'oxygène, il amène tout ce qu'il faut pour que les cellules fonctionnent. Donc, probablement que c'est comme ça. Je dis probablement parce qu'on n'est encore pas tout à fait certain de ce qu'on fait, mais on sait que ça fonctionne. Ça favorise aussi la communication entre les cellules nerveuses. Selon les études animales, ça favoriserait même la création de nouvelles connexions entre les neurones et même de nouveaux neurones. Les études animales chez les rats, c'est facile, les rats, on peut, par biopsie, après voir ce qui s'est passé dans le cerveau, montrent que des cellules nerveuses nouvelles ont été générées dans certaines régions du cerveau après l'entraînement physique chez des vieux rats. Okay? Des vieux rats, ça a 20 quelques mois, là, mais... C'est peut-être un effet plus complexe qu'on pense aussi. Avec l'âge, on a tendance à faire moins de sport, moins d'activité intellectuelle aussi, donc moins de vitalité cognitive. Mais si on fait plus d'activité physique, on le sait, et ça je peux vous le garantir parce que dans nos études, on a reproduit ces effets-là, on améliore le sommeil des personnes âgées. En améliorant le sommeil, on améliore leur vitalité cognitive. Quand vous dormez bien, vous mémorisez bien. Combien il y en a qui ont eu des enfants ici? Vous souvenez-vous de la première année? De 0 à 1 an. Elle a dit « ça passait vite ». Non, non, madame, c'est parce que vous ne dormiez pas, vous ne vous souvenez de rien. C'est pour ça qu'on en fait d'autres. Quand on ne dort pas, on ne consolide pas en mémoire. Ça prend tous les stades du sommeil plusieurs fois par nuit pour consolider nos apprentissages. Okay? Donc, si vous dormez mieux, vous mémorisez mieux. Si vous faites plus de sport, je ne vous apprends peut-être rien, mais si vous faites plus de sport, vous allez dormir mieux ce soir. Bon, les premiers jours, c'est évident. Après une coupe de course, là, on est fatigué. Mais même quand on est très en forme, ça favorise le sommeil qui est réparateur. Ça favorise aussi le bien-être physique. Moins de maladies pulmonaires, moins de maladies, moins de haute pression, moins d'obésité. Tout ça, ce sont tous des facteurs associés à la vitalité cognitive. Okay? Et bon, souvent, l'activité physique entraîne de meilleurs comportements alimentaires. Les gens plus en forme mangent mieux, qui mangent mieux, réfléchissent mieux. Les études en alimentation l'ont prouvé. C'est moins mon domaine, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais ceux que ça intéresse, je peux vous trouver des références intéressantes là-dessus. Il y a beaucoup d'études sur l'île de Montréal qui montrent qu'il y a un lien cognition-cerveau et alimentation. Donc, pour conclure sur l'activité physique, on peut conclure avec la phrase de Stanley, qui est assez connue. « Ceux qui ne croient pas avoir le temps pour faire de l'exercice physique devront tôt ou tard avoir le temps d'être malade. » C'est vrai aussi pour votre cerveau. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Ce que je vais faire, je ne vais pas vous donner les recettes, mais je vais dire rapidement qu'il faut être régulier, en faire longtemps, 3 fois par semaine. Pour être efficace, l'activité sportive doit être régulière et pendant plusieurs années, c'est encore plus efficace. En fait, les athlètes de haut niveau qui cessent toute activité physique à 30 ans auront à 60 ans les mêmes risques de maladie que les autres. Donc, ça ne sert à rien de vous booster une couple d'années puis d'arrêter après. Il faut être actif longtemps. C'est la même chose pour ceux qui étaient moins en forme. Ceux qui ont commencé à faire des activités physiques tardivement vers 30-40 ans et qui poursuivent jusqu'à l'âge de 60 ans ont moins de risques vasculaires. Et ce qu'on sait de plus en plus, c'est qu'après 60 ans, ça peut fonctionner aussi. Il faut essayer de gérer ses efforts, pas trop en faire. Combiner les exercices. Moi, je suggère toujours un peu de course, mais aussi des exercices physiques pour maintenir l'intégrité de la souplesse, la force un petit peu musculaire, parce que ça nous favorise une meilleure activité physique, mais aussi ça va diminuer les risques de blessures. Et si vous n'avez pas été actif pendant très longtemps puis que vous avez des doutes quant à votre condition physique, bien évidemment, vous devriez toujours consulter un médecin. Toutes les études que je vous ai montrées aujourd'hui sont des études scientifiques sérieuses. Tous nos participants sont évalués par un médecin, parfois même par un cardiologue avant de commencer des études. Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux, mais il faut faire attention aussi. Toute forme d'activité physique qui fait stimuler votre cœur va être très bon. Marche rapide, course pour ceux qui le peuvent, vélo, natation. On ne recommande pas d'eau froide, par exemple. N'allez pas vous baigner dans l'eau trop froide, ça, c'est pas bon pour le cœur, apparemment. Mais les activités assez intenses pour augmenter. Donc, marche rapide, course à pied, course lente, vélo, ainsi de suite. Pour augmenter la fonction cardiaque. En guise de conclusion, parce que je vous ai montré beaucoup de science, beaucoup de données, mais vous pourriez vous demander, mais comment je fais ça dans la vie de tous les jours? Ce que je vous recommande fortement, et c'est appuyé sur des données scientifiques. C'est pour ça que je suis ici, d'ailleurs, pour vous parler de données scientifiques. Moi, je ne suis pas un coach de vie. Hein? Je ne suis pas quelqu'un qui rencontre individuellement les personnes âgées, mais je les étudie depuis longtemps. Puis je peux vous dire que ce que je recommanderais à quelqu'un qui veut rester actif, c'est d'avoir, au même titre que votre conseiller financier vous le dirait, il vous dirait, vos placements, il faut qu'ils soient variés. Hein? Mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Comme ça, s'il y a un crash à quelque part, vous aurez de l'argent ailleurs. S'il y a une compagnie qui fait moins de cotes en bourse, vous en aurez ailleurs. Bien, c'est pareil pour vos activités intellectuelles. Vous pouvez rester actif de différentes façons. Moi, je recommande souvent des activités individuelles et en groupe. Pourquoi? Parce que si le groupe ne suit pas, bien, vous n'êtes pas en plan tout seul à la maison. Puis parce que des fois, on n'a pas le goût de voir les gens. On a le goût d'être un peu plus tout seul. En même temps, on ne veut pas toujours être tout seul. Puis c'est très déconseillé parce que cognitivement, c'est bien d'être en société puis d'interagir avec les personnes. Donc, il faut aussi des activités en groupe. Hein? Deux placements différents. Je vous recommanderais aussi, donc en groupe individuel, je vous recommanderais aussi des activités très mobiles, très énergiques, mais d'autres moins mobiles, moins énergiques. Pourquoi? Parce que il y a des journées où on ne file pas, où on a plus d'arthrite, où on est juste fatigué de la veille. Est-ce que ça veut dire que mon cerveau est en congé et qu'il ne peut rien faire? Peut-être que j'ai le goût d'être actif pareil. Donc, ces activités-là peuvent être très, par exemple en groupe, très mobile, groupe de danse ou groupe de marche, très énergique, qui demande beaucoup d'énergie, des activités communautaires engagées. Mais je vous recommande d'en avoir des beaucoup moins énergivores. Faire des rencontres de dîner, faire un journal familial, faire un club de lecture. Ça, c'est en groupe. Beaucoup moins énergivore. S'il fait froid dehors et qu'on n'a pas le goût de sortir, notre cerveau se stimule quand même. Des activités individuelles sont importantes aussi, parce que si le groupe ne suit pas, comme je disais, le problème, c'est que vous n'aurez rien à faire. Donc, des sports individuels. Il y a beaucoup d'études, un auteur intéressant à lire, Cohen, aux États-Unis, qui suggère une approche de ce genre-là, dit que de plus en plus, il y a dans son bureau, c'est un psychiatre qui travaille avec les personnes âgées, il y a de plus en plus d'exemples de personnes qui ont développé des nouveaux plans de retraite comme écrire les mémoires de la famille, écrire les recettes familiales. Il y a une dame de 100 ans qui s'apprête à publier aux États-Unis son livre de recettes familiales. Ça, c'est une belle forme de stimulation intellectuelle qui ne demande pas beaucoup de mobilité. Donc, pour quelqu'un qui aurait des problèmes de marche ou qui a besoin d'une chaise roulante ou d'une canne, c'est stimulant intellectuellement sans avoir à mettre de l'énergie physique. Beaucoup à la mode aussi l'arbre généalogique. Moi, je vous donne un exemple personnel. C'est comme ça que j'ai découvert d'où venait ma famille. J'ai un oncle qui habite Montréal, que j'ai découvert quand je suis rentré sur Montréal, qu'on s'était vu peut-être 2-3 fois avant, qui est à la retraite depuis longtemps, qui me dit, on se rencontre, puis mon père me le présente, puis il me dit, ah, mais t'es à Montréal, tu devrais peut-être parler à ton oncle. Je le rencontre. Il commence à me parler qu'il est en train de faire l'arbre généalogique, fait que j'y amène mon contrat de mariage, l'acte de naissance des enfants pour l'aider, puis il était bien content. Et c'est comme ça que j'ai appris d'où venait la famille et d'où venait toute l'histoire familiale et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui se stimule énormément. Il attend après personne. Lui, il aime bien faire les choses tout seul. C'est un minimum d'énergie physique parce qu'il se promène en métro pour aller chercher les informations. Donc, s'il y a des problèmes de mobilité, il peut rester stimulé quand même. Et en plus, ça augmente ses interactions sociales parce que je vous dirais que c'est devenu la personne la plus populaire de toute la parenté. Une autre forme d'activité moins sociale, individuelle, assez sociale quand même, mais très individuelle, c'est l'informatique aujourd'hui. Hein? De plus en plus de personnes vont acheter un ordinateur pour envoyer des courriels aux petits-enfants. Étonnamment, moi, ça m'est arrivé, ils n'ont jamais voulu acheter d'ordinateur, mais depuis que tu as des enfants, là, ils veulent des ordinateurs, des écrans super beaux avec des caméras pour les voir puis jaser avec eux autres. Hein? Mais ça les stimule. Là, les enfants apprennent à jouer avec l'ordinateur, les grands-parents apprennent à jouer avec l'ordinateur, puis là, tout d'un coup, il se passe quelque chose, un nouvel apprentissage. Ils doivent apprendre quelque chose qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et c'est social, c'est entretenu. Parce que souvent, faire une activité quand on est seul, ce n'est pas agréable. Et ce n'est pas stimulant, il n'y a pas de renforcement pour continuer cette activité-là. Donc ça, c'est ce que j'appelle, et comme le suggère Cohen aux États-Unis, pour ceux qui s'intéressent, je pourrais vous donner la référence du livre, un portfolio social. Donc, des activités diversifiées, vastes, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, mais on est sûr que ça va payer parce qu'on est sûr que notre cerveau va rester actif et stimulé, peu importe le type d'activité qu'on fera. Et en guise de mot de la fin, je vous laisse sur cette citation très encourageante d'un physicien américain qui résume à peu près tous les propos que j'ai tenus aujourd'hui. C'est que votre cerveau n'arrête jamais de se développer et de changer. Il a commencé lorsque vous n'étiez qu'embryon et il continuera toute votre vie. C'est une propriété qui représente probablement sa plus grande force. Je finis en remerciant mon équipe de recherche qui supporte tous les travaux que je vous ai présentés aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou plus?
Si il y a des questions, je vous invite à venir au micro.
Bonjour et merci, c'est super. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on a une idée du niveau d'activité physique, par exemple? C'est avec ça que j'ai plus de problèmes, là. Nécessaire pour avoir un impact un peu. Je comprends probablement, plus on en fait, mieux c'est, là, mais...
Ben en fait, peut-être pas, hein? On le sait pas. Okay. C'est qu'un organe comme les autres, le cerveau, fait que je sais pas si trop serait bien non plus. On le saura bientôt parce que on est en train d'étudier des athlètes de haut niveau qui ont 70-80 ans, puis peut-être que, ben, si on voit qu'il n'y a pas d'effet bénéfique, peut-être que trop, c'est pas assez non plus. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que pour des gens très sédentaires, donc sédentaires, ça veut juste dire qu'ils font pas de sport, hein? C'est pas négatif nécessairement, là. Il y a des gens qui lisent énormément et qui font d'autres choses. Ouais. Chez les gens sédentaires de Montréal, francophones, dans la dernière étude, 3 fois semaine, 30 à 40 minutes d'activité physique qui implique des étirements, de la marche, de la danse aérobie, ont donné les effets que je vous ai montrés aujourd'hui. Donc, 3 fois semaine. Typiquement, nous, ils viennent le lundi, mercredi, vendredi matin.
3 quarts d'heure.
Donc, avec l'étirement, le réchauffement, puis le cool-down, comme on dit, là, on s'étire après parce qu'on ne veut pas être raqué le lendemain, calculer 1 heure. Puis là-dessus, ben, un bon 20-30 minutes de plus d'intensité de marche rapide. Quand vous allez marcher là, la fin de semaine, si vous activez un peu plus la patate, comme on dit, quand on marche plus rapidement, vous faites ça 20-25 minutes, 3 fois semaine, puis vous allez avoir des effets après 3-4 mois, facilement. Le truc, c'est d'être régulier. Puis c'est pour ça que nous, on recommande de le faire en groupe. Parce que tout seul, là, c'est pareil à tous les âges, pas parce qu'on a 60 ans. À 20 ans, c'est pareil. Tout seul, c'est plate. Les étudiants, là, à l'université, ils se mettent en groupe pour étudier la fin de semaine, parce que c'est beaucoup plus motivant. Mais il faut faire pareil. Nous, ce que nos études ont montré, c'est que quand les groupes sont de 5, 6, 7, 8 personnes, c'est l'optimal. Plus que ça, c'est difficile. Hein? Ramasser une équipe de football, là, c'est compliqué. Il faut appeler tout le monde, c'est compliqué. Fait que je vous dirais, entre 5 et 8 personnes, c'est optimal. Vous vous retrouvez. En plus, c'est motivant. Quand ça ne vous tente pas, bien, il y en a deux autres que les autres sont de bonne humeur et vont vous motiver. Puis c'est pareil pour nous. C'est pareil à tous les âges, ça. Fait qu'il faut trouver des trucs pour se motiver, pour garder un 3 fois semaine pendant plusieurs mois d'affilée. Puis je vous jure que les effets sont incroyables.
Merci.
Oui?
Est-ce que vous pourriez revenir sur votre acceptable? Les effets de l'entraînement. Bon, maintien, l'activité cérébrale.
Celui-là.
Oui, bon, c'est le numéro 2. Merci.
C'est le plus impressionnant. Ce sont des études animales qui ont montré ça, par contre. Il faut faire attention parce qu'on ne le sait pas encore chez l'humain. Mais chez l'animal, je peux vous dire que les changements au niveau du cerveau sont impressionnants. On a même vu des nouvelles connexions entre les neurones. Les cerveaux s'activent beaucoup. Il reste à voir si les technologies nous permettront de vérifier ça chez les humains, idéalement à court terme. Oui? C'est une excellente question. Il y en a, mais je vous dirais que du côté de l'activité physique, il n'y en a pas beaucoup encore. Il semblerait que c'est favorable. Il semblerait que c'est favorable, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on peut prétendre que ça va ralentir la progression. Ce qu'on sait par contre, c'est que les gens qui ont une cognition un peu moins performante, qui vont rester actifs 3 à 4 fois par semaine, comme je disais tout à l'heure, ont moins de chances de développer la démence. Ça a été montré dans une étude américaine ou australienne, Larson, en 2006, a montré que les gens qui font plus de 3 fois par semaine d'activité physique vont décliner moins, ils ont moins de chances de développer la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence vasculaire, par exemple. Mais pour renverser la vapeur, c'est une bonne question, c'est une autre question qui va mériter d'être étudiée. Ça marche pour l'activité intellectuelle, dans certains cas, mais moins que chez les personnes saines. Donc, ce que ça nous dit, c'est que la prévention est la meilleure approche pour l'instant. Il faut vraiment commencer tôt puis rester actif au maximum. Pardon. Oui?
Au sujet de l'alimentation, vous avez pas abordé le problème, là, comme les oméga-3, les choses comme ça. C'est quoi l'impact? Est-ce que c'est encore...
C'est un champ en plein développement. C'est pas beaucoup mon domaine. Je peux vous dire qu'on a des chercheurs montréalais très impliqués. Guylaine Ferland, entre autres, vient d'une professeure de nutrition de l'Université de Montréal, a publié cette année un livre qui s'appelle « Nutrition et vieillissement ». Vous aurez des indices de qu'est-ce qu'il faut manger pour bien vieillir. Les dernières études que moi j'ai vues dans les conférences scientifiques favorisaient beaucoup l'alimentation qu'on appelle associée aux antioxydants. La blague étant qu'il faut manger des berries, des blueberries, des raspberries, donc des petits fruits mûrs, des petites mûres. Les bleuets, c'est drôle, le Québec est souvent cité par les chercheurs américains là-dessus parce qu'on a plein de bleuets. Le bleuet, apparemment, est très bon, mais ce sont des études animales. Hein? Faut faire attention. Quand on demande à ces chercheurs-là combien de bleuets faut manger par jour, ce qu'on appelle en anglais les side effects peuvent être importants aussi. Faut faire attention. Le brocoli est plein d'antioxydants. C'est peut-être moins pire que de manger trop de bleuets. Mais fruits, antioxydants, sûrement. Moi, j'aurais pas peur d'aller dans cette direction-là. Pour le reste, il va falloir attendre, je pense, encore un petit peu ce que les études vont montrer.
Les activités, vous dites, intellectuelles favorisent le retardement du vieillissement, mais les activités artistiques, est-ce que ça a le même genre de...
Moi, je crois que oui. Je pense que... L'activité artistique est une activité de création constante. Et à moins que vous peigniez toujours la même chose, mais je ne pense pas que ce soit ça de l'art. Je pense qu'on a des beaux exemples au Québec de quelques artistes. Il y en a une, Bélanger, je crois, qui est une sculpteur hyper connue dans le monde, qui a commencé, je pense qu'elle avait 75 ans à faire de la sculpture. Ça montre que, elle avait le potentiel, j'imagine. On ne devient pas artiste qui veut, j'imagine. Mais il y a sûrement du potentiel à développer et sûrement que ça entretient parce que ce que nos études montrent, c'est qu'il faut mettre la personne dans une situation de nouveauté. Il faut la stimuler, la sortir de sa zone de confort. J'utilise souvent cette expression-là, mais c'est vrai. Donc, si vous faites toujours la même petite routine, c'est pas bon. C'est sûr que ça garde votre vie structurée, mais ça stimule pas toutes les facettes de votre cerveau. Donc, rester actif en faisant de l'art est sûrement une bonne... Et ça doit être agréable pour ceux qui font une activité artistique qui aiment. Ça doit être très agréable. Fait que moi, je vous dirais tout... Le grand défi, c'est de maintenir l'activité. Fait que sur ce côté-là, ça doit être une bonne avenue. Trouvez une activité que vous aimez, sinon on les lâche. C'est pas compliqué, c'est ce que nos études montrent. Quand les gens essaient de faire de la course à pied, là, tout seul, là, c'est bon la course à pied, là. Super bon pour le cerveau, là, puis pour le cœur et tout, là, mais c'est plate. Fait que tout le monde arrête. Fait qu'il faut trouver une activité qu'on aime, qu'on va faire de bon cœur le matin. Oui, monsieur?
Vous avez parlé au début du taux de fécondité qui était décroissant.
Oui.
Et j'entendais hier soir dans une conférence que les Autochtones au Québec avaient une croissance surprenante dans leur fécondité. Pourtant, ils ont des conditions de vie possiblement difficiles. Alors, j'essayais de voir quelle était leur relation.
Pardon? Il y a moins de pilules. Écoutez, je ne peux pas vous répondre. C'est un domaine que je connais peu. Je ne sais pas quels sont les déterminants d'une baisse de taux de fertilité dans le monde. D'ailleurs, vous m'apprenez ça. Moi, je ne savais pas que les Autochtones avaient un taux de reproduction plus élevé que nous. Donc, je ne peux pas vous répondre.
C'est que je me suis imaginé que ça pouvait être dû à l'urgence de la survie de leur groupe.
Peut-être. Oui, c'est possible. C'est une façon socialiste, pas socialiste, mais sociale de voir le problème, c'est-à-dire que cette société-là réagirait, c'est ça que vous voulez dire?
Ouais, comme nous,
c'est possible.
Nous l'avons fait dans le 19e siècle.
Ce qui expliquerait peut-être pourquoi les régions occidentales bien nanties ont le plus faible taux. On n'a comme plus besoin, on ne sent pas le besoin, on ne se sent pas menacé. Ce serait une vision de la chose.
Les Palestiniens, entre autres, ont des quantités élevées.
Ouais. Ça irait dans le sens de... Mais moi, personnellement, je peux avoir des opinions personnelles, mais j'ai aucune donnée probante en science pour aller dans ce sens-là. Bien, je vous remercie beaucoup de votre attention.
Merci.
Au revoir.